C'est la semaine des annonces d'été, donc il me paraît bien qu'on va partir en vacances. On vous souhaite pour celles et ceux qui partent en vacances d'avoir des belles vacances agréables, enrichissantes et puis divertissantes.
Son son est pas bon.
Oui, hein, c'est ça. Hein.
On entend des choses.
Ah, ok. Ouais, au pire, on va l'enlever. Si ça dérange, on va l'enlever.
Bienvenue à cette séance du conseil du mois de juin. Comme je disais, c'est le début de l'été cette semaine. Ça commence à se faire sentir. On avait hâte. Parce que le plus de l'éant. Et puis, il y en a qui vont partir en vacances. On va souhaiter des vacances divertissantes, enrichissantes, puis amusantes, puis surtout d'oublier votre travail pendant quelques semaines. Détendez-vous. Comme à l'habitude, il y a des questions qui sont posées plus tard le vendredi midi. Ils sont normalement envoyés à la greffière. Il y en a qui vont les directeur dans mes courriels, mais bon, c'est correct aussi. Je vais commencer avec la première question qui vient de M. Pierre Lafont. Alors, M. Lafont veut savoir, on a eu à la séance du mois de mai, au point 8.7, qui on a parlé de la question d'un terrain sur le mont Loup-Garou. Monsieur dit qu'on n'a pas précisé le montant et puis à qui et à quoi ça va servir. Le terrain en question, c'est une servitude, c'est une zone humide, et puis les prises acquises, ça ne coûte rien, c'est-à-dire que c'est 47 000 $ pour le terrain avec les frais d'avocat, et puis on avait un fonds, qui est le fonds de biodiversité du gouvernement, qui était de 24 000, puis on avait un autre fonds gouvernemental qui s'appelle le SNAP, je crois que ça veut dire la CNRP, je sais qu'on marche beaucoup, qui était derrière.
C'est ça.
Comme je dis, les abréviations dans le monde municipal, il y en a une, fin l'autre. C'est 24 000 ici, donc on avait 48 000, puis le terrain nous a coûté 47 000. Donc, il n'y a aucun frais. Puis l'objectif, c'était de protéger ce terrain-là, qui a été cédé à l'Institut des territoires qui va s'occuper de voir à ce qu'il y a toujours un lieu de conservation. Voilà. Puis monsieur me pose une deuxième question. Il dit que à chaque fois qu'il me pose des questions, que je ne dis jamais sa question intégralement et que je fais une atteinte à sa réputation. À quoi cette réputation? C'est la liberté d'expression. La raison, ce n'est pas compliqué, c'est que dans tes questions, il n'y a aucun jugement de valeur. Les opinions qui parfois sont diffamatoires, sont insultantes ou encore mettent en doute notre intégrité. Donc, je me réserve le droit d'aller à la question et de répondre à la question, point à la ligne. Voilà. J'ai eu aussi quelques questions de Mme Brière. Première question, est-ce que le propriétaire des terres du Chanteclair qui a demandé. Est-ce que c'est le propriétaire des terres du Chanteclair qui a demandé à la ville d'inclure les terrains dans le périmètre urbain de la ville? La réponse est non. D'ailleurs, je pense qu'il n'était pas tout à fait heureux qu'on modifie le périmètre urbain ou qu'on modifie le périmètre, oui, c'est ça, et qu'on fasse un PPU, parce que notre objectif, c'est de créer le PPU avec comme objectif de protéger le plus possible de zones forestières, de couverts forestiers. On savait qu'avec son projet de 343 chalets locatifs, ça a fait beaucoup de pluie, beaucoup de faux sceptiques, puis on ne voulait pas aller là. Fait qu'on voulait aussi faire un modifié périmètre pour arriver aussi en fonction des années 2030-2040, penser un peu à l'avenir pour la ville. La deuxième question de Mme Brière, c'est est-ce que Trigone Construction si le préfet du Golfe-Chanteclair est inclus dans le périmètre urbain, la réponse est non. Et aussi, je ferais remarquer que Tégone Construction n'est plus dans le décor. Tégone Construction avait perdu, ceux qui ont vu à la télé, avait perdu sa licence de construction. Donc, il n'était plus dans le décor, mais c'est par contre des gens qui étaient à l'intérieur de Tégone qui ont pris la relève, mais ce n'est pas du tout dans le périmètre urbain. Troisième question, combien la ville va-t-elle investir dans le dossier du Chanteclair en 2021-2025? Firme en urbanisme, études, égouts, aqueducs et études sur la circulation, s'il y en a, ainsi que les consultations publiques. À cet égard-là, je peux vous dire que la consultation publique comme telle a coûté 29 822,49. L'élaboration du PTU du secteur Chanteclair, 123 134,21, ce qui donne un total de 152 956,73. Là-dessus, on peut ajouter la caractérisation écologique du Chanteclair à écoute territoire qui a coûté 27 954. Ça, c'est des dépenses qui sont directement reliées au PPU. Il y a aussi eu des études de circulation et des études au niveau des infrastructures, mais ça ne concernait pas exclusivement Chanteclair, ça concernait l'ensemble du territoire de Saint-Adèle. Donc, cette étude-là a coûté la somme de 293 000. Oui, c'est ça. Mais là-dessus, il y a simplement à peine 20% de cette somme-là qui concernait le territoire de Chanteclair. Voilà. Maintenant, concernant la dernière question, c'était combien le nouveau siège social de la MRC va-t-il coûter aux Adélois, incluant terrain, bâti, ses déménagements? Le coût total pour Saint-Adèle, c'est basé sur le. En fait, les montants ont été établis, les cotes-parts ont été établis en fonction et du RFU et de la population. Donc, 50% RFU, 50% population. Qui donne pour la ville de Saint-Adèle un montant annuel de 121 300 $, étalé sur 30 ans avec les débuts en 2028. Ça comprend la construction, l'aménagement du terrain, l'ajout d'un service de garde communautaire comme de 9 places, puis les frais de déménagement, tout ça c'est inclus dans le montant. Et puis, le montant total qui est autour de 15 millions, c'est un moment bon, mais il y avait aussi 8,8 somme de revenus, c'est-à-dire le pratine avec 7,2, puis la vente du bâtiment 1,5, ça donne 8,8 millions. Et puis il y a beaucoup de contingences là-dessus qui fait que le montant pourrait éventuellement aussi réduire. Et puis il ne faut pas oublier que la MRC, si on versait un loyer de 65 000 $ par année, pour un deuxième site où on entreposait où était situé surtout. La gestion des matières individuelles, les bacs, etc., etc. Mais là, maintenant, tout est sous un même toit. Donc, c'est un 65 000 $ par année qui ne sera plus à payer. Voilà. Maintenant, je vais mettre une note. J'ai eu des questions aussi concernant le fameux domaine de Holpan. Ça m'a beaucoup. Plusieurs questions. La première question, c'était à quel moment dans le développement du projet que la ville a émis ou émet le permis d'implantation? Est-ce que M. Bernard a ce permis? Il n'y a pas de permis d'implantation, il y a simplement les permis de bâtiment et les permis de construction. Et dans le cas présent, il y a eu des bâtiments de 5 terrains sur le chemin de la vallée. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas d'autres lotissements ailleurs sur le terrain en question. La deuxième question, qu'adviendra-t-il du ruisseau Timmins qui passe entre les deux entrées ainsi que de l'autre côté de la rue des Copains? Sera-t-il canalisé ou est-ce que M. Bessin a besoin d'un permis pour effectuer les travaux de canalisation? Est-ce que le ministère de l'Environnement du Québec est impliqué? À l'heure actuelle, c'est dans la phase 2. C'est des travaux qui sont à l'extérieur de la bande, qui vont être à l'extérieur de la bande de l'Ivrel. Je remercie Mme Desrosiers qui m'a fait faire le tour et que j'ai pu identifier les différents points névralgiques du ruisseau Timmins. Là, j'ai signalé le fameux point où ça déborde au printemps parce qu'il y a de la roche et du gravier qui était dans le terrain. Et puis, c'est ça. Fait que dans le moment, c'est pas dans le périmètre, c'est pas dans la bande des graines. Et puis, je suis pas au courant de tous les détails, mais dans le moment, je pense pas qu'il va être analysé à partir du moment où il atteint la vue en bas. L'autre question qu'il y avait à ce niveau-là, c'était, apparemment, M. Bennett ne veut pas finir les travaux d'entrée de son projet domiciliaire à l'intersection des chemins Pelado, de la vallée et des copains. Il voudrait que la ville termine les travaux. Est-ce vrai? Sinon, pourquoi a-t-il pas repris les travaux? Non, c'est pas vrai. C'est que M. Bettner va reprendre les travaux au début de juillet. Ce qu'il nous a promis, il devait continuer les travaux au début de juillet. Maintenant, il va continuer les travaux. Donc, s'il ne faisait pas, c'est certain qu'il avait fait un dépôt de garantie, peut-être 40 000. S'il fait les coûts, c'est 76 000. Mais on n'aura pas à aller là, apparemment, d'après ce que M. Lesman nous a dit. En quoi consiste la modification du système d'épuration des eaux usées de la vallée du Haut-Alpin que M. Bessinat doit effectuer avant de pouvoir commencer? C'est, l'installation d'un aérateur.
État d'aération.
État d'aération qui c'est des coûts de 85 000 que M. Bessinat assume. Ensuite, de ce quel est le coût approximatif de cette modification du système d'épuration que je viens de dire, c'est 85 000. J'espère que j'ai bien répondu, sinon, ben, vous me dites que je pense que j'ai bien répondu à ce que vous me demandez. Ensuite de ça, les dernières questions que j'ai eues, c'est de M. Létourneau, Jean-Pierre. Considérant qu'au cours des 10 dernières années, notre population a augmenté d'environ 20%, l'affiliation de 30%, notre compte de taxe de près de 50%, notre compte médian de taxe de près de 50%, pourriez-vous donner les raisons et cause de même que vos sources qui justifient cet état? Enfin, le 50, c'est difficilement identifiable parce que la valeur médiane a changé au fil des différentes évaluations à toutes les trois années. Donc, il est difficile d'établir un pourcentage, de dire les bâtiments il y a 10 ans versus aujourd'hui, que c'était ça, c'était ça aujourd'hui. Donc, il y a des valeurs qui changent à l'intérieur de ça. C'est sûr qu'il y a des augmentations de coûts. Qui sont dus à plusieurs raisons, mais premièrement, le gouvernement lance des responsabilités, nous donne des responsabilités pour nous donner les revenus qui vont avec, en faisant la réfection et l'entretien des barrages. Ensuite de ça, il y a évidemment l'augmentation de la population. On a dit d'arrêter d'augmenter la population. L'augmentation de la population nous fait perdre parfois des subventions, parce qu'à partir de tel nombre d'habitants, bien, il y a des subventions auxquelles on n'a plus de droit. Il y a aussi les taux d'intérêt sur la dette qui ont augmenté. Puis, évidemment, il y a beaucoup de travaux d'infrastructures qui n'ont pas été, d'entretien des infrastructures qui n'ont pas été faites et jamais budgétées au cours des 15-20 dernières années. Je veux dire que nous, on est là depuis 4 ans, hein, donc quand on parle de 10 ans, on n'était pas là plus le temps. Et puis, il y a des travaux qui n'ont pas été faits au niveau de l'infrastructure. Le plus bel exemple, c'est la caserne de pompiers qui était due déjà en 2002. Et qui a apparemment coûté 2 millions à l'époque et qui va en coûter 15 à peu près aujourd'hui. Donc, c'est un exemple des infrastructures qu'on a délaissées et qu'aujourd'hui, bien, on est pris avec ces travaux-là. On les fait, ces travaux-là. Au niveau des infrastructures, on a mis en place un plan pour améliorer et mettre à jour nos infrastructures. On a créé les redevances parce qu'on a décidé de s'y attaquer. Voilà. Maintenant, pour l'autre question qui concernait, l'autre question. Remarquez ce que je vais quand même répondre, mais c'est pas une question de séance conseil. Une question de séance conseil, c'est une question directe pour avoir une réponse précise. Lorsqu'on pose une question pour demander une opinion, en principe, il faut que je réponde. C'est plus un débat. Puis ça, c'est des débats. On peut en faire, vous allez prendre des rendez-vous, venez me rencontrer à mon bureau. Ça me fait plaisir de jaser avec vous des différents points. Mais je vais quand même me prêter au jeu de cette question-là, où on dit, rue Saint-Joseph, secteur Montréal, de 9h à 5h, ou à 17h, il passe en moyenne plus de 600 véhicules à l'heure. Est-ce que ce genre de calendrier que nous souhaitons vivre ici à Saint-Adèle? Le 600, premièrement, je ne sais pas où M. Létourneau, vous êtes allé chercher ça. Mais je me suis prêté, comme je disais, à l'exercice. Je suis allé m'installer pendant les heures de pointe dans ce qui était autrefois le bureau touristique et qui est maintenant la propriété de ce sport. J'ai regardé les autos qui travaillaient dans des heures de pointe où il est passé en moyenne pas loin du 600, là, si je me fie, parce que je suis parti avec 5 minutes, j'ai multiplié par le. Pour arriver à une heure. Et puis, mais ça arrive par grâce. Même année, il n'y a personne, t'as coup, il y a presque une minute, t'as coup, il y en avait 10, 5, ça arrête, ça recommence. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la rue Saint-Joseph, c'est la rue d'accès à Mont-Royal. Donc, tout le monde passe par là pour aller dans Mont-Royal. Puis aussi, c'est la voie d'accès pour aller sur le parc linéaire, autant pour les touristes que pour les visiteurs usagers du parc. Alors, ça, c'est ça que je dis, je me prête un peu au jeu à donner une réponse. Maintenant, n'avons-nous pas atteint pareille brillante circulation dans un endroit de l'autoroute? Ça, je ne réponds pas à ça. Je peux vous dire que 24, il y a moins d'autos qui passent qu'il y en avait avant, le fait que c'est un sens unique. Avant, il y avait des autos, c'est 200. Morin et Valiquette, effectivement, c'est un point critique. Il devient un point critique à Saint-Adèle. Maintenant, Valiquette, bon, c'est Valiquette, je ne parlais pas de Sidouin, je parlais de Valiquette qui est dans le sens unique. Et puis Sidouin, ben, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ils veulent écrire le fait de circulation. Alors, c'est tout ce que je me permets de dire pour cette question numéro 2. Puis la question numéro 3. Quand on vous pose une question écrite, pouvons-nous avoir un droit de réplique dans l'immédiat? Bien, écoutez, en principe, ce n'est pas un débat, c'est que lorsqu'on a une question, on donne une réponse, c'est fini, ça se termine. C'est peut-être mon point de vue, je ne sais pas partager peut-être pas, mais c'est comme ça qu'on entrevoit les
réponses.
Merci. Attends, c'est ça. Je n'ai pas une idée. OK, mais je vais continuer maintenant parce que vous savez qu'on est obligé à traiter tout le monde. Au mois de juin, actuellement, on a les états financiers qui sont déposés. Alors, je vais vous donner les faits saillants un peu du rapport financier 2024. La ville accuse un surplus de 4,691,412 $. Et puis, on se demande tout le temps d'où ça vient. C'est évidemment, il y a deux choses. Bien, d'une première part, il y a évidemment les droits de mutation qui ont été. Ça fait deux ans que les frais de mutation, on s'attend à ce qu'ils diminuent après la pandémie où ça a grimpé, mais il y a encore énormément de transactions qui sont, puis depuis, encore plus depuis que les taux d'intérêt ont baissé. Donc, c'est une partie ça, du surplus. Comme j'ai dit, des revenus excédentaires de près de 9,120, ce qu'on prend évidemment, puis une réduction des dépenses aussi de notre côté. Concernant les revenus, comme je disais, par un ralentissement du marché immobilier en 2023, on constate une reprise qui se traduit par un surplus au niveau des frais de mutation de 1,769,000. Et puis, les évaluations résidentielles aussi, qui ont été portées au rôle, ont été plus élevées que les montants qui avaient été prévus, ce qui donne un autre surplus de 271 000. La ville aussi a reçu des subventions importantes en 2024 pour le montant d'environ de 600 000 $. Vous savez que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, la plupart souvent, le gouvernement va créer un fonds de secours ou un fonds d'urgence pour rembourser les villes pour les frais que ça occasionne. Et puis là, ben, ils nous ont payé pour trois événements d'un deux ans. Ils nous ont payé pour l'inondation de 2017. Ensuite, le derecho de 2022, la tempête de vent qu'on a vécu. Et puis aussi, la crue des eaux de l'été en 2024 à la Saint-Jean, lorsque tout le monde était au courant, c'était passé du côté du Mont-Gabriel. C'est étonnant, j'ai trouvé ça d'or. J'ai dit, nous paye 2024 si vite, mais apparemment, quelqu'un était dans le dossier qui a dit, on va régler ça, qu'il y avait là, une force à travers tout. Donc, on a été payé pour 2017, 2022 et 2024, ce qui fait justement cette somme-là d'environ 600 000 $. D'un autre côté, les dépenses de la ville ont été à la baisse à cause aussi en partie d'un hiver qui était relativement clément. Les dépenses d'opération qui incluent le service de la dette ont été moins élevées que prévues, permettant à la ville d'épargner 760 327, ce qui représente 2,2% de moins que les dépenses anticipées pour 2024. Encore cette année, l'équipe municipale a fait preuve d'une grande rigueur, guidée par des politiques, des procédures qui permettent d'adopter les meilleures pratiques en matière de gestion financière, de répondre aux attentes des contribuables. D'importantes économies ont été réalisées grâce à l'effort collectif des différents services, puis juste pour parler de l'énergie, en raison notamment d'une saison hivernale clémente, les charges de fonctionnement liées au transport présentent une diminution de 489 495 comparativement au budget initial adopté. Au cours de l'année, la ville a fait différents investissements pour assurer la revitalisation. On a eu des consacrés plus de 12 832 343 à différents projets structurants. Je vais vous les énumérer. Il y a d'abord les plans 40-80, l'aménagement d'un réseau fluvial en parallèle du réseau sanitaire. On finit cette année la phase 3, il va rester une phase l'an prochain. Ensuite de ça, on a fait des travaux de bouclage de réseau d'aqueduc sur la rue Bourg-Joly pour accommoder l'agrandissement du CPE de la Barouille. On a construit un nouveau chalet d'accueil au Lacron, que vous avez probablement tous vu. On a fait la question génératrice pour les puits Riverdale et Ronchard, et pour la pose de suppression des cadres que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps, particulièrement avec tous les temps d'électricité que ces gens-là vivaient régulièrement. Ensuite aussi, on est investi dans différents projets de réfection et bonification de réseaux du pied, comme par exemple les barrages sur la rue du Pillard, Château-Vent, des signes, puis un ajout de traverses piétonnières que vous avez sûrement tous vu aussi à la place des citoyens. On a fait la question d'intérim, la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, et puis on a fait la question récemment, je pense que c'est dans la dernière séance conseil qu'on a parlé, d'un camion échelle de service de sécurité incendie. Donc, afin de poursuivre la planification stratégique et la gestion des actifs dans un contexte économique incertain, le conseil municipal prévoit utiliser une partie de l'excédent de 2024 pour mettre en place des réserves financières. Vous allez voir dans l'ordre du jour, il y a des avis de motion pour la création de différentes réserves financières. On va vous expliquer à ce moment-là le pourquoi de créer des réserves financières. On va en avoir pour les infrastructures, une autre pour les changements climatiques, ensuite la promotion et le développement durable sont toutes des réserves qui vont être créées. Et d'abord, on va faire la promotion qui va être créée. Donc, ces réserves, c'est qu'à ce moment-là, l'argent qui est affecté dans une réserve doit être utilisé pour le sujet dans lequel est créée la réserve. Cette année encore, le rapport du vérificateur qu'on a rencontré avant de venir aujourd'hui a été déposé sans réserve. Et qui témoigne d'une gestion rigoureuse et responsable et qui indique que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2024. Le rapport financier pour 2024 est disponible sur le site de la ville dans la section publication, budget et rapport financier. Puis vous allez avoir à ce moment-là toutes les différentes données là, sur la dette, les revenus, etc. Alors, je vous invite donc à. Si vous voulez voir tous les détails, vous rendre sur le site web de la ville, à la publication slash budget et rapport financier. Voilà. Il n'y a pas d'approbation à faire là-dessus, de toute façon, c'est ce qu'on a discuté. Maintenant, on va débuter l'ordre du jour. Je l'ai dit, ça va me prendre une quinzaine de minutes facile, mais je ne sais pas. Ouverture de l'Assemblée. L'adoption de l'ordre du jour de la séance du 16 juin, est-ce que c'est un propos?
En
y
répondant, je
le
propose avec le retrait du point 2.3.
En fait, le point 2.3,
il manquait,
il y avait juste une copie,
donc
on
ne
peut pas approuver
quelque chose.
On va le
reprendre.
Parfait,
est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Parfait. Dans l'administration 2.1, approbation des procès de vote de la séance ordinaire du 20 mai 2025 et de la séance extraordinaire du 26 mai 2026. Ouais, ouais. 25, on a
juste noté 2026. Oui, ouais. Il y en a un dans l'ordre du jour. Bon. Ça, c'est moins pire que une résolution. Oui, moi, je propose la fin des procès-verbaux. J'ai été là, à haut de séance.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. 2.2, rémunération du personnel électoral, élection municipale 2024. Qui propose?
Ariel Baudin, je propose pour les élections qui sont venues en novembre. Puis, dans le fond, c'est pour la rémunération, donc on s'est comparé avec les villes avoisinantes pour être dans la moyenne.
Parce que si on regardait des travailleurs d'élections ici, il fallait être compétitif. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci. Finance 3.1, modification règlement 1339 et des travaux de réfection, secteur des pentes 40-80, phase 2 et 3. Quelqu'un propose?
Oui, moi de l'unité, je propose. Ce qui est arrivé, c'est que on a fait un règlement d'emprunt pour ça, puis il y avait une portion additionnelle qu'on va payer avec une subvention du gouvernement. Mais là, le gouvernement nous est revenu et dit, même si vous n'avez pas emprunté tout cet argent-là, il faut que vous refassiez le règlement d'emprunt pour inclure le montant que nous, on va vous payer en subvention. Donc, on change ça. Bon, il n'y a pas de nouveaux emprunts là-dedans, c'est juste qu'on ajoute le montant qu'on reçoit en subvention pour être conforme. Donc, je propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Si emprunt temporaire, le règlement 1365, 68 et 69. Quelqu'un propose?
Oui, je propose encore, c'est au cas où on a besoin de faire des emprunts temporaires, ce qui veut dire essentiellement on prendra l'argent sur une marge de crédit, mais on n'a pas besoin de faire ça. C'est juste au cas où on approuve ça. Ça, c'est pour trois règlements qui sont l'achat du terrain pour l'école. La nouvelle école qui va s'en venir à un moment donné, puis pour les travaux sur le barrage Richer et aussi pour le programme de réfection routière.
Peut-être rajouter justement ça, dans les charges qui nous sont transférées de Québec aux municipalités, de fournir le terrain, c'est une nouvelle responsabilité des municipalités, donc ça fait partie là, de...
Bien, aussi les barrages, ça fait
de compétences aussi.
Donc en fait, dans ces trois règlements d'emprunt, il y a deux choses qui sont des nouvelles responsabilités qu'on n'a pas eues il y a 10 ans.
Tout le monde est d'accord?
Oui,
d'accord. Merci. 3.3. Demande déclaration de taxes spéciales garde-manger des pays d'en haut. Quelqu'un propose?
Ariel Baudin, je propose. Dans le fond, c'est le garde-manger des pays d'en haut, vu son déménagement, qui demande une reconnaissance pour l'exemption de taxes. Vu que c'est un OBNL reconnu par la municipalité de Saint-Isabelle, on va appuyer sa demande à la commission municipale du Québec.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Oui, d'accord. Ressources humaines, 4.1, autorisation de signature, lettre d'entente, CBC, numéro 33, syndicat des cols blancs. Quelqu'un propose?
Alexandre Ragnard propose, c'est que nos adjoints des opérations vont contrat à 33 heures semaine, puis là on part un premier pilote pour monter à 38 heures semaine jusqu'au 31 décembre 2025.
Ça, c'est un contrat blanc, c'est qu'il nous a des cols
blancs.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
5.1. Amendement de la résolution 2025-222, éducation, services d'entretien ménager de bâtiments municipaux. Quelqu'un propose?
Éducation d'un accident de fonctionnement d'entretien, Alexandre Ragnard propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci. 6, services techniques. 6.1, éducation, travaux de réfection routière du chemin Notre-Dame ainsi que des travaux de réfection de trottoir sur la route 117 et Maurice-Sabine. Quelqu'un propose?
Oui, moi je propose de Blainstein. On a déjà parlé de l'appel d'offres, mais ça c'est justement le programme de réflexion routière. Je fais attention de ne pas utiliser l'acronyme pour ne pas vous induire en erreur. Mais c'est exactement ça. C'est une longue section de chemin Notre-Dame à laquelle on va rajouter une piste multifonctionnelle. Donc, marché vélo. Puis à ça, on a rajouté la réfection du fameux trottoir rose sur la 117 qui tombe en ruine. Ça va être fait avec une bande végétalisée entre le trottoir et la route, ce qui devrait améliorer le drainage puis aussi un peu la sécurité des piétons. Tout ça pour la modique somme de 2,085,281,99 €, je propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui,
d'accord.
Oui.
6.2, octroi de contrat surveillant des travaux de réfection routière des mêmes endroits, du chemin Notre-Dame, des travaux de réfection du trottoir de la 117 et de Maurice-Albien, donc contrat de l'accord du contrat de surveillance. Qui propose?
Moi, je propose, j'ai oublié de mentionner, c'est l'entreprise Daniel Fillion Excavation qui était le plus bas subventionnaire pour les travaux. Là, on a la surveillance des travaux qui est, c'est la surveillance des travaux. Ça a été accordé à Parallèle 54 Experts Conseil pour un prix de 79,620,54 €.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. 6 emplois supplémentaires et étudiants techniques pour la quatrième année.
Ariel Baudin, je propose, dans le fond, l'implantation du bâtiment va être déplacée un petit peu, donc ça va être pour 6 forages additionnels. Ça va être groupe STP pour un montant de 32 650 $ qui va être travaillé ce mandat. Et dans le fond, ça va finir par nous coûter moins cher.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Oui, d'accord.
Merci. 6.4, par toi, contrat remplacement de l'appareil d'évacuation du barrage Vélichet. Quelqu'un propose?
Jean-François propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci. Oui. 6.5, par toi, du contrat auscultation des chaussées. Quelqu'un propose?
Richard, alors le propos, je vais quand même proposer un amendement à la résolution telle qu'elle se lit. On alloue le montant du contrat de 22 362,64. Dans la résolution, on demande une appropriation de 30 000 $. C'est un projet qui nous vient de Québec. C'est une obligation de Québec pour être éligible pour des subventions. Donc, on doit faire l'analyse là, de l'état de nos routes. C'est une nécessité. Le montant qui a été alloué là, de 22 362,64, c'est un entrepreneur qui a lu l'ensemble du devis et qui s'est engagé à faire les travaux pour ce montant-là. C'est une obligation de Québec, c'est une obligation bien définie par Québec. Deuxième chose, c'est un rapport qu'on a déjà remis, donc c'est un rapport que l'on connaît à la ville. Une troisième chose aussi, c'est que je vois aucune possibilité d'avoir des extras. Si tout a été fait selon les normes, il n'y a rien qui amène à avoir des suppléments de coûts pour ce type de contrat-là. Le problème, c'est qu'une résolution, c'est public. Il y a une game qui se joue du plus bas soumissionnaire. Les villes ont l'obligation d'aller vers le plus bas soumissionnaire. On le voit partout, là, c'est pas à Saint-Adèle, là, c'est généralisé là, dans la fonction publique. On lance un low ball, je m'excuse pour les termes en anglais, on lance un low ball, puis ensuite on essaie de se refaire là, avec un paquet d'extras. Pour ce type de contrat-là, je ne vois pas, puis on n'a pas réussi à me convaincre qu'il y avait possibilité d'avoir des extras. Donc, pour être sûr de ne pas envoyer un message à, en fait, il va falloir que ça soit généralisé, là, de dire il reste de la marge, on vous donne un 8 000 ou environ un 8 000 de plus si vous trouvez des extras de pouvoir. Pour éliminer ce mode de fonctionnement-là, je pense qu'on doit être responsable puis dire il y a un contrat qui était déjà bien défini, qui a été alloué à un certain montant, puis on doit s'en tenir au montant. Donc, dans la résolution telle qu'elle est présentée, accorder le contrat pour auscultation des chaussées quinquennale, donc à tous les 5 ans, à l'entreprise Englobe Corporation pour un montant de 19 450 $ plus taxes. Et ensuite, où je veux faire la modification, que le conseil autorise l'appropriation jusqu'à concurrence d'une somme de 30 000, on va la changer pour une appropriation pour le montant du contrat de 62 et 64.
Donc là, on a deux choses. On doit approuver l'amendement.
D'abord, est-ce que je vais demander le vote sur l'amendement?
C'est ce que je dis.
Est-ce
que vous êtes d'accord à approuver l'amendement?
Oui, moi je suis d'accord aussi.
Donc, vous êtes d'accord avec l'amendement. Maintenant, est-ce que vous proposez la résolution avec l'amendement?
La proposition amendée ou j'en fais la proposition?
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on fait ça. Super. 6.6, autorisation de signature du protocole d'entente travaux municipaux boisés du chemin. Qui propose? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
6.7, autorisation de signature du protocole d'entente travaux municipaux rue de la Rivière. Quelqu'un propose? Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
6.8, octroi de contrat, contrôle qualitatif PPRR 2025, quelqu'un propose?
Oui, moi, David Lemoutier, je propose, c'est en lien avec le programme de réflexion routière dont j'ai parlé déjà. Justement, je voudrais ajouter qu'on en fait la surveillance des chantiers, c'est à cause de ce jeu qui est joué avec le plus bas missionnaire. La surveillance des chantiers, c'est surtout là pour les surveiller au cas où ils demandent des extras pour dire non, 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 t'as pas besoin de faire ça. Et on joue la game. On le joue. En tout cas, là, c'est pas ça. Contrôle calculatif, c'est pas ça pour tout. C'est vraiment des tests de laboratoire. Puis là, ça a été accordé à DEC Enviro pour un montant de 33 865,89.
Juste pour ajouter mon grain de sel, parce que je suis fatigué ce soir, là. En fait, c'est de s'assurer que les travaux exécutés sont conformes aux plans et délais.
Oui, c'est pas juste pour les extras, mais c'est entre autres pour ça.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. L'urbanisme, les points 7.1 à
7.8,
je cède la parole à monsieur. Alors,
je ne vois plus mon nom. OK, d'abord au point 7.1 pour le 4137 rue du Croissant du Lac, afin de permettre qu'une deuxième porte d'entrée soit présente sur la façade orientée vers une rue, alors que le règlement le limite à une seule porte d'entrée. La deuxième porte, en fait, c'est sur un agrandissement du bâtiment où ce qui pourrait sembler être une porte pour le garage, alors que c'est une porte type mode entrance, là, entrée de service. Là, alors, il ne donne pas du tout sur le garage. Ça a été accepté parce qu'il n'y a aucune contrainte et aucun problème là, pour le voisinage dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure-là? Donc, je vais demander de passer au vote sur la dérogation.
Est-ce que tout le monde est d'accord d'approuver la dérogation?
Oui, d'accord.
Merci. Je vais pour ce... Hein? C'est trop pour les deux.
De ces deux négations, c'est trop pour moi.
Les 7.2
pour le lot 2,453,777 qui vont devenir plusieurs lots. Là, le lot 6,542,479, 4,84,501 et 506. Sur la rue Alexis, c'est un projet qu'on voit là, à répétition, là, les gens qui participent aux assemblées du conseil le voient souvent. Donc, c'est une dérogation pour permettre que deux remises attenantes se retrouvent en cours avant alors que le règlement l'interdit. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la demande de dérogation?
Bon, votre épaule, mais encore une fois, je suis bien déçu d'emmener que ça pourrait être fonctionné, mais j'en viens pas. Ça, à toutes les fois. L'ancien pour l'Alpine, on avait eu des discussions, elle n'a pas justement que chaque maison devienne en dérogation. Puis j'ai l'impression que c'est la finale.
Il y a une raison à ça qui a été discutée aussi. C'est lui, là, je peux peut-être pas, puis ça va être au bénéfice de tout le monde. C'est que si on faisait un changement réglementaire, les autres terrains dans la zone auraient peut-être pu se permettre d'avoir des choses. Donc, c'est pour garder un certain contrôle sur ces dérogations mineures-là, pour les conserver uniquement pour le projet. C'est comme moi que ce projet-là a été vendu d'un entrepreneur à un autre. On a demandé énormément à cet entrepreneur-là. Donc, on peut le remercier là, pour sa souplesse. Là. Il s'est rallié au projet initial. Il a fait beaucoup de sacrifices là-dessus. On va le remercier, mais quand même, on n'avait pas le choix là, de passer à travers tout ça. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Là. Je suis désolé.
C'est aussi la façon que le projet est fait, que le cours avant a une définition à géométrie très variable. Mm-hmm. Et on ne veut pas autoriser que tout le monde mette un cabanon dans sa cour avant. Donc, c'est un peu ça.
Merci pour ton commentaire, Décent. Donc, je fais la proposition d'accepter la dérogation.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui,
d'accord. Oui, d'accord.
7.3.
Pour le lot 2-232-997 et 2-233-570, pour la rue du Congrès, permettre que la surface végétale en cours avant et en cours avant secondaire soit de 45,4% et 46,94%, alors que l'article du règlement exige un minimum de 60% en cours avant et en cours avant secondaire. La demande, la recommandation du comité consultatif est de refuser cette demande-là pour les motifs suivants. La demande n'est pas analysée en vertu des critères d'évaluation des dérogations mineures, considérant le refus de la demande de construction au PIA, qu'on va voir un petit peu plus tard. Là, le PIA n'a pas été accepté, donc la demande de dérogation mineure suit la même logique. Donc, je propose qu'on refuse la demande de dérogation mineure sur la rue du Congrès.
On est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. 4.4.
Demande de dérogation mineure pour le lot 8888435 sur la rue Grignon pour le projet Vivre en Logis. Afin de permettre la dérogation, afin de permettre que la marge avant soit de 4,23 mètres alors que le règlement exige une marge avant minimale de 6 mètres et permettre que la marge arrière soit de 9,92 mètres alors que le même règlement exige une marge arrière minimale de 20 mètres. Demande aussi l'allée de circulation à double sens à une largeur de plus de 6 mètres alors que le règlement limite la largeur à 6 mètres. La largeur du bâtiment soit de 6,93 mètres alors que le règlement exige un minimum de 10 mètres. Enfin, le dernier point, que la façade principale soit à angle de plus de 45 degrés par rapport à la ligne avant du lot donnant sur la rue Lesage, alors que le règlement limite à un maximum de 45 degrés. En fait, c'est une implantation qui avait déjà été acceptée pour le projet Vivre en Logis, qui a eu des modifications là, sur l'implantation, donc on doit reprendre le processus avec la nouvelle demande de dérogation. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait ça. Il y a des petits images, merci. Donc ça va être le projet, ça va être le projet Vivre en Logis. Vivre en Logis est situé derrière l'église ici à
Saint-Pétersbourg. Ah, c'est pas bien en partie parce que c'est sur la rue Lesage, mais c'est pas vraiment sur la rue Lesage parce que l'entrée est vraiment sur Grignon, je pense. En tout cas, c'est pas. Mais techniquement, c'est sur Lesage, donc ça donne lieu à plusieurs confusions par rapport au règlement.
De là, le plus de 45 degrés, là, ça ne fonctionne pas parce que l'entrée va vraiment être sur le. Est-ce qu'on l'a voté?
Non, c'est ça, je vais
OK, mais ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'abord des commentaires sur la demande de dérogation? Non. Dans votre demande, j'en fais la proposition.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, on est d'accord.
Bon, on arrive maintenant au PIA.
Au point 7.5, accepter des dérogations, refuser, là, parce que je les ai écrits dans le désordre, j'avais d'abord accepté, puis ensuite les refuser, mais on va les faire tels qu'ils sont présentés là, à l'ordre du jour. Donc, au point 1, donc refuser la...
Excuse,
la
7.5.
Il y a plusieurs demandes. On doit normalement les accepter en bloc, mais il y en a qui sont refusés. Aimez-vous mieux que je les présente, ceux qui sont acceptés, qu'on les vote, puis ensuite on refuse.
Non, mais bien sûr, ceux qui sont refusés, c'est l'heure du jour.
Pour faire l'heure du jour. OK, on va faire l'heure du jour. Donc, au point 1, refuser le PIA suivant au 1717 boulevard Saint-Adèle de Salon-de-Quille. La rénovation, la demande est refusée. Et en tout cas, la proposition du CCU est de refuser la demande de PIA car elle ne respecte pas les critères d'évaluation du PIA en vigueur et que les précisions formulées par le demandeur n'ont pas suffisamment permis d'améliorer la proposition. En fait, c'est le repeinturer là, le revêtement extérieur là, du salon de quille, puis il voulait en faire seulement qu'une partie, ça aurait été des couleurs qui auraient été là, un peu confondantes. Moi, les couleurs, vous savez ce que j'en pense, mais il y a aussi de l'amélioration sur la pourriture qui commence à y avoir. Donc, on va devoir éventuellement apporter des assouplissements pour permettre que le bâtiment ne se dégrade pas, mais ça viendra dans un deuxième temps. Il va y avoir entente, fort probablement, avec nos services d'urbanisme et les propriétaires pour s'assurer là, de la protection du bâtiment, mais dans des conditions qui sont plus acceptables pour... dans le cadre d'un pays.
Parfait.
Donc, là, je ne sais pas comment faire pour accepter et refuser.
Mais alors, à la fin, tu vas dire, celui-là, on propose que le refuge, on propose qu'on l'accepte de la façon.
C'est pour ça que c'est toi la mairesse.
Continue avec les lots à 2232.
OK, le deuxième, c'est le lot 2-232-997 et 2-233-570 sur la rue du Congrès. Donc, le CCU recommande de refuser la demande de PIA pour une construction. La demande est refusée car elle ne respecte pas les critères d'évaluation du PIA en vigueur en lien avec l'aménagement du stationnement qui doit être conçu pour minimiser l'impact sur les propriétés adjacentes et diminuer les espaces de stationnement avec les aménagements paysagers pour les camoufler. Est-ce qu'on ne le voit pas, hein, la photo là, du, en tout cas, peu importe. C'est une demande pour un bâtiment qui est surdimensionné par rapport au bâtiment voisin. Puis il y aurait impact au niveau là, des voisins, principalement au niveau des stationnements qui sont proposés.
Il y a deux maisons qui finiraient par être enclavées complètement par le stationnement, parce que le stationnement, il va prendre presque tout l'espace disponible dans le terrain. C'est marqué dans le plan qu'il y avait des arbres, mais les marges entre le stationnement et le niveau du terrain ne sont pas suffisantes pour vraiment permettre d'avoir des arbres. Là.
Ensuite, pour le 442 chemin Pierre Pelladeau, pour le salon de bronzage au 1001 Caprice, c'est le salon de bronzage qui est déjà là, qui s'appelle comment là?
Capri,
donc ils ont changé le nom, ils voulaient changer la fiche commerciale. Par contre, le CCU s'est penché là-dessus et sur l'enseigne, il propose de refuser car il ne respecte pas les critères d'évaluation du PIA en vigueur en lien avec la surcharge de l'inscription, donc trop de textes, et les différentes polices et couleurs d'écriture. Donc, on va demander de reviser la fiche commerciale pour qu'il soit un peu plus conforme et sécuritaire. Quand on est sur un chemin passant, avec une affiche où il y a beaucoup, beaucoup de textes, les gens peuvent faire de l'attention sur la route et ça peut amener un problème là, pas de sécurité très grave, mais des accrochages, c'est jamais très agréable. Donc, la recommandation du CCU, c'est de refuser. C'est sûr qu'on refuse.
Le 14-15 rue Grégoire.
Le 14-15 rue Grégoire, c'est une rénovation qui demande de changer deux portes avant et une porte patio à l'arrière. Les portes sont déjà blanches. Le vitrage arrête au milieu de la porte. Là, ils vont les changer pour des portes plus récentes, à meilleur état, avec le vitrage qui va descendre jusqu'en bas. J'imagine qu'il y a un petit chien qui veut regarder devant, là, je ne sais pas trop. Puis à l'arrière, c'est une porte conventionnelle qui va être changée pour une porte patio. Donc, le CCU recommande d'accepter cette demande de PIA-là. Les deux, c'est des affiches. La première, c'est pour Poutine Lafleur. Donc, l'affichage de Poutine Lafleur sur la grande pancarte qu'il y a à l'arrière.
À côté de la bibliothèque.
Pardon?
À côté de la bibliothèque.
Non, mais
pancarte. Ah oui, pancarte.
Puis il y a aussi une pancarte sur le mur du bâtiment, donc ça va changer. Je pense qu'éventuellement, ils vont rendre conformes les deux affiches, là, mais on verra. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'accepter ce PIA-là, cette affiche-là, ou cette enseigne-là, disons avec affiche. Ensuite, pour le 114-555 boulevard de Sainte-Adèle, pour l'entreprise Keblou Santé, c'est une enseigne aussi sur la grande affiche qu'il y a sur le bord de la
France.
La recommandation du CCU, c'est d'accepter
Donc, le 7.5, il y a tout. Les jours venus, on les refuse. Les jours venus.
Mais là, je vais vous nommer par leur numéro. Là. On va refuser le 20-25-100. Je recommande de refuser le 20-25-100, le 20-25-101 et le 20-25-102. Et d'accepter le 20-25-103, 20-25-104 et 20-25-105.
Juste les numéros de révolution, ça ne dit rien aux gens.
Ouais, c'est les numéros de révolution.
On recommande. Je les ai déjà détaillés. Donc, les trois premiers sont refusés, puis les trois autres sont acceptés. Donc, on accepte le changement des portes et les deux affiches commerciales. Et le reste est refusé pour les raisons que j'ai Oui, là, je suis rendu à proposer.
D'accord.
Oui, d'accord.
Donc, 4.6, demande d'autorisation d'un usage conditionnel, rue 2, 453, 755. Qu'est-ce que rue Alexis?
L'usage conditionnel, c'est pour permettre d'avoir une mixité d'offres de logements. Donc, on a demandé à l'entrepreneur, c'est le même que je vous disais, là, que, à qui on a demandé beaucoup, de prévoir des 3,5, donc 25 % de 3,5, 25 % de 5,5 et le reste à sa convenance. Ça va tourner aux alentours de 4,5, peut-être quelques 3,5, là, mais c'est l'usage conditionnel pour accepter les résolutions suivantes. Donc, pour la... En fait, c'est sur la rue Alexis, je vais tout à l'heure des détails tous. Non, elle me dit non, là, la greffière me dit non. Donc, on va dire que les résolutions pour construction de bâtiments H04, multifamilial de 4 logements dans une zone où cet usage est autorisé par un usage conditionnel. C'est tout sur la rue Alexis pour le même projet. Donc, j'en ai 12. Au total, est-ce que je les détaille?
Non.
Tout le monde m'a fait des grands signes.
Non.
Je vous remercie beaucoup.
Donc, je propose de l'adoption de...
D'accepter les résolutions.
Parfait. Donc, c'est une question d'accord.
Oui, d'accord.
On arrive au 7.7. Adoption de résolution, petit témoin, l'eau 2232-28, boulevard de Saint-Adèle.
Donc, le PPC moi, c'est que le Conseil adopte la résolution du projet présenté au lot 2-232-288 boulevard de Saint-Adèle visant à autoriser la construction de deux habitations multifamiliales de 6 unités sur 2 lots projetés, dont la superficie d'implantation au sol projetée est respectivement de 6,5% et 16,8%, dont les fonds bâtis sur rue sont respectivement de 31,86% et 50,4% sur le boulevard de Saint-Adèle et de 28,9% sur le chemin du Golfe. Donc, pour situer, là, pendant que je suis là, c'est 117 et le chemin du Golfe à l'intersection. Là. C'est là qu'il va avoir lieu là, les constructions. Dont trois cases de stationnement empiètent en cour avant, dont la largeur d'entrée charretière est de 11,35 mètres et dont l'allée de circulation a une largeur maximale de 8 mètres, dont l'ouverture des façades principales au rez-de-chaussée sont de 19 et 26 % et dont l'un des bâtiments a une orientation de plus de 45 degrés par rapport à la ligne de l'eau avant donnant sur le boulevard Saint-Adèle. Le tout aux conditions suivantes. Puis là, vous allez voir, on va y revenir un petit peu plus tard sur les conditions d'acceptation d'un PPCMOI. Il y a eu une partie de désinformation là, sur une autre chose là, où on s'est mis à dire des choses là, qui ne sont pas en lien avec le règlement sur le PPCMOI, mais je vais quand même faire le détail là, des conditions, puis vous allez voir que c'est des conditions qui doivent être respectées. S'ils ne sont pas respectées, le processus du PPCMOI est à recommencer depuis le début. Donc, les conditions, c'est pour chacun des bâtiments, une variation de typologie des logements doit être prévue. Ainsi, un maximum de 25 % des unités ne doivent offrir qu'une seule chambre à coucher, donc un 3,5. Un minimum de 25 % des unités doivent offrir trois chambres à coucher pour la mixité. 10 % des unités devront être des logements abordables selon une entente avec le programme de subvention d'un organisme public. C'est un point important là-dessus. Les matériaux sur les deux façades arrière sont du même type que ceux prévus sur les autres façades, soit pierre et ou revêtement métallique. La présente autorisation devient nulle si les travaux de construction ne sont pas entrepris dans les 18 mois de l'entrée en vigueur de la présente résolution. Donc, oui, ça a une date d'expiration, PPCMOI. Et à moins d'indication contraire dans la présente résolution, l'ensemble de la réglementation d'urbanisme s'applique compte tenu des adaptations rendues nécessaires par la présente résolution. Donc, c'est le PPCMOI indiqué au point 7.7.
Alors, je vais poser l'adoption.
J'en propose l'adoption.
Est-ce que tout le monde est
d'accord?
Oui,
d'accord. Oui, d'accord.
7.8, adoption de résolution PPCMOI, Louis 3889-296, boulevard de Saint-Adèle, la coupole.
OK. Donc, projet relatif de construction, de modification d'occupation des immeubles. À Saint-Adèle, on l'a dit, la coupole, les bâtiments qui vont être situés juste à côté, visant la construction de deux bâtiments de 21 logements sur 4 étages, avec des espaces de stationnement en cour avant qui empiètent devant la façade des bâtiments sur le lot 3889296 du cadastre du Québec, boulevard Saint-Adèle, tel que présenté au plan par Philippe Bélanger, arpenteur géomètre. À la version 31 mars 2025. Il y a eu une assemblée publique où il y a eu des demandes de modification et ces demandes-là ont été tenues en compte. et les nouveaux plans qui datent du 31 mars, modifiés en fonction là, des demandes qui avaient été présentées par les gens présents dans la salle. La présente autorisation devient nulle si la nouvelle construction n'a pas été entreprise dans les 18 mois, là, ce que j'ai dit tantôt. Et l'ensemble de la réglementation d'urbanisme s'applique compte tenu des adaptations rendues nécessaires. Oui, je propose.
Tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord. Oui, d'accord.
7.9. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'habitation prolongation du délai de conformance. Quelqu'un propose?
Moi, des priorités, je propose. C'est un règlement qu'on va adopter ce soir. C'est une modification au. Oui, c'est une modification aux contraintes sur les constructions en pente avant. Ça a été demandé par la MRC, c'est changé dans le schéma d'aménagement. Ça a été notre affaire aussi, mais on est obligé aussi. Ça veut dire, avant, c'était la pente moyenne sur l'implantation de bâtiment. Maintenant, c'est juste la pente. Donc, s'il y a une pente de 30% en plus, là où quelqu'un veut construire, on ne peut pas construire là. Donc, pour construire dans les endroits où il n'y a pas de pente. Pas de pente à CFD, c'est ça. Là, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on adopte le règlement, mais il faut que ça soit approuvé par la MRC dans un délai fixe. Mais la MRC n'a pas de séance en juillet, donc c'est possible que ça ne soit pas accepté à temps. Donc, on va demander au ministère de prolonger le délai pour que la MRC puisse faire une séance. On demande aussi à la MRC de faire une séance extraordinaire.
Il va y en avoir une, je ne suis pas certain que c'est à l'heure du jour, mais...
Bon, parfait. On fait la demande pareille juste au cas où. Je propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
710 refus, PPC moi, 1325 rue du Bourgeois. Quelqu'un propose refus?
Oui, c'est ça. Moi, je propose qu'on suit le... l'avis donné, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser ce PPC moi. Je vais pas faire l'extension de l'acronyme, mais c'était un projet d'habitation collective pour rester actif qui était proposé essentiellement dans la petite butte
à la sortie de
Ferrot. Il y avait des aspects intéressants. C'est 200 unités locatives. Il y avait une certaine proportion qui était abordable dans un sens assez significatif. Mais reste que avec la densité qui est augmentée dans cet endroit-là, c'est une sorte d'autoroute qui est défective, comme on le sait, parce que ça va juste dans un sens. Puis aussi la façon que le terrain le plan a été aménagé, ça ne crée pas un espace de vie qu'on trouvait vraiment acceptable, tant qu'à mettre quelque chose comme ça en bordure d'une autoroute, faudrait bonifier le projet. Donc, l'avis du CCU est de refuser cette version du PTC moi, donc je propose.
J'ai juste fait un peu du bout. Est-ce que tu as spécifié que c'était situé dans un corridor de bruit? Puis que...
Non, je n'ai pas spécifié, mais oui, ça aussi, ça c'est quelque chose d'important là-dedans. C'est ça, je peux dire les attendus en fait. C'est justement ça exactement, ça, c'est vraiment important qu'on ne voyait pas le sens d'augmenter la densité dans un corridor de bruit, surtout. Mais aussi parce que la façon, il y aurait eu des galeries qui seraient quand même données sur l'autoroute. On trouve que ce n'est pas trop acceptable comme situation. Puis aussi, que la cour intérieure, qui était supposée d'être une aire commune, parce que c'était supposée d'être une sorte de communauté, mais la cour à l'intérieur qui était proposée était un stationnement. Donc, ce n'est pas vraiment une communauté en tant que telle. Donc, on propose de refuser.
Parfait. Tout le monde est d'accord?
D'accord.
Merci beaucoup. Le 7.1 demande d'urbanisme, modification d'un projet majeur de lotissement Bourgeois du chemin. Quelqu'un propose?
Oui, moi je propose. Ça, c'est un projet en fait qui est approuvé depuis un bon moment. C'est à la limite de Morin Heights. C'est sa part. Du côté de Morin Heights, il y a déjà un lotissement qui a été fait. C'est la rue du Randonneur. C'est de l'autre côté. En tout cas, c'est vraiment à la limite de Morin Heights en montant vers le sud du rang 2 ou chemin du lac Fenot.
Donc, ce qui a été modifié, c'est l'emplacement des sentiers, parce qu'il y a, il y a le sentier portageur, puis aussi un autre chantier, un nouveau sentier, en fait, de ce qu'ils font, qui seront pérennisés par ce projet-là. Là, je propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, je suis d'accord.
Parce que 7.12, adaptation de la résolution PPC-MOISO 2453-882, 2453-883, voisin du 2304, chemin de Deauville. Quelqu'un propose?
Oui, je propose. Ça, c'est une demande de projet particulier de construction, modification ou occupation. Donc, dit projet particulier, ça veut dire que c'est un projet particulier, c'est spécifique à un seul lot. C'est pas une modification réglementaire pour une zone, c'est pas une modification réglementaire pour l'ensemble de la ville, c'est pour un lot en particulier. Comme on a vu, il y a un délai de 18 mois habituellement pour que ça se réalise. Là, dans ce cas, on avait déjà vu parler de ce projet. C'est un projet très intéressant parce que c'est un gros lot boisé à la limite de Sainte-Marguerite, où il est proposé de construire 5 cabines en forêt. C'est des refuges rustiques, perchés en haut d'une montagne, essentiellement avec des chemins, avec des sentiers d'accès. C'est essentiellement un projet qui vise à mettre en valeur un terrain boisé sans déboiser le terrain vraiment. Donc, tout, si on compare de lotissement où ça va déboiser pour faire des routes, ça va déboiser pour faire des maisons. C'est vraiment un projet qui vise un peu la conservation tout en gardant un usage du terrain. On avait déjà passé les conditions. Il y avait des conditions sur la hauteur. Tout ça a été approuvé. Donc, on est rendu effectivement à l'approbation du projet. Je veux mentionner, parce qu'il y a eu une demande de registre pour demander un référendum. Là, il y a deux phases. Là. Les gens peuvent faire une pétition pour demander un registre. Puis là, il va y avoir un registre que les gens habiles à voter dans le secteur et les zones adjacentes peuvent signer pour demander un référendum, je ne suis pas capable de prononcer. Puis là, ça va avoir lieu le 7 juillet de 9h à 19h ici à l'hôtel.
Le registre.
C'est un projet de conservation d'abord et avant tout. Il y a une série d'attendus là, qu'on peut voir où c'est vraiment défini. Donc le PPC et moi ne pourra pas partir dans tous les sens comme on a entendu un peu passer. Il y a des gens qui disent, mais si on permet ça, ils peuvent arriver, ils vont avoir le droit de faire de l'hôtellerie puis ils vont pouvoir construire un hôtel là-dessus. C'est absolument pas le cas. Le PPC moi, c'est tel que l'ensemble des attendus, tels qu'ils sont inscrits, dès qu'on change un attendu dedans ou un des critères là-dedans, tout retombe à l'eau puis on doit recommencer l'ensemble du processus. Dans la balance, c'est une personne qui veut faire profiter de son terrain, c'est pas moins de 600 mètres carrés, là, c'est immense, et il veut avoir 5 couchées en forêt là-dedans. Soit des couples, donc 2 pour 5, ça veut dire 10 personnes, ça peut aller jusqu'à un maximum de 4, donc jusqu'à un maximum de 20 personnes sur cette étendue-là là, au complet. Je pense que dans la balance entre ça et revendre un promoteur qui va lotir et créer un paquet de maisons là-dessus, le projet était critiqué parce que les gens avaient peur, puis je les comprends d'avoir peur sur la protection de leur lac. Je pense que le projet tel qu'il est présenté est une meilleure protection que de laisser aller le projet là, dans le cadre tel qu'il est présenté. Là. Parfait. Je trouve ça juste, je vais le rajouter tout de suite, je voulais en parler au mot du conseiller après. Là. Je trouve juste dommage qu'on vienne prendre en otage un projet pour essayer de gagner d'autres points. Le point est tout à fait légitime de dire on veut protéger le lac Deauville, ça c'est tout le monde s'entend là-dessus, mais prendre ce projet-là en otage pour essayer là, de gagner des points auprès de la ville, je ne pense pas que ce soit la façon la plus correcte là, de gérer les choses. Il y a déjà eu des propositions qui me semblaient tout à fait acceptables là, pour ce qui est de la gestion de l'entrée municipale au lac Deauville. il faudrait revoir avec un comité qu'est-ce qui pourrait être fait, mais ça, je pense que ce serait plus raisonnable dans la gestion de cette situation-là, là, puis on cherche à la tenir la plus simple. Qu'est-ce là, je suis tout simple et stupide, séparons les choses, puis mettons l'énergie aux bons endroits, puis l'énergie devrait être mise. Bon, accepter le projet, selon moi, là, mais la décision, ça va prendre. Puis, ensuite, pour ce qui est de la protection du lac Beauville, on pourrait le gérer de façon à part et indépendant de l'autre projet.
Okay. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui,
oui, oui, d'accord.
Je veux juste préciser que concernant le lac, l'accès au lac, et on essaie de situer une rencontre avec le comité de Beauville pour étudier l'accès au lac dans les prochaines, sûrement la semaine prochaine. On ne pouvait pas la semaine dernière, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas disponibles. Cette semaine, c'est nous qui ne sommes pas disponibles parce qu'on est jusque-là toute la semaine. Alors, ça va sûrement être fait la semaine prochaine.
J'ai eu vent de ces projets-là, puis il y a des propositions qui font. Qui font tout à fait du sens. On irait dans le sens de la protection.
Est-ce que tout le monde s'est prononcé, était d'accord?
Oui.
Parfait. On invite les loisirs culturels et puis communautaires, l'autorisation de signature, l'acte de vente, bâtiment et équipement, parc du Mont Loup-Garou. Quelqu'un propose?
Fabienne Baudin, je propose, dans le contexte où la Chambre de commerce et du tourisme de Saint-Adèle fait la gestion du parc du Mont Loup-Garou. Donc, la ville va acquérir. Pour 75 000 $, y compris le conteneur de rangement, donc le bâtiment d'accueil, les outils, les fournitures de bureaux et des matériels commerciaux.
Est-ce que tu en es d'accord?
Oui.
D'accord.
Oui. Oui.
C'est comme?
Non. Non, mais je compte, c'est une question de principe. Je compte depuis le début. Je ne peux pas être pauvre. Je trouve ça dommage qu'on mette 75 000 $ d'argent des contribuables là-dedans. Quand je pense que ça fonctionnait, là,
c'est eux qui nous
cèdent. Oh, ouais, ben, tu vois qu'ils sortent de l'eau, qui cèdent. Mais au début de tout, je suis pas d'accord.
Okay.
Mais je suis pas content que ça solde les coûts comme ça. Okay. C'est juste que je n'ai pas été d'accord du comment ça s'est fait.
Parfait. Donc, c'est adopté en majorité, c'est ça?
Oui.
Ben, oui, c'est accepté.
On arrive maintenant à plusieurs des émotions. Quand j'ai parlé de création de réserve, peut-être tout à l'heure, vous allez voir, c'est des émotions pour d'éventuels règlements de réserve financière. 10.1, qui donne la vie de motion?
Je, Richard Allard, conseiller municipal, donne la vie de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le futur règlement 1371 créant une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance relativement à l'aqueduc municipal. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante.
Parfait. 10.2.
Je pense que tu l'avais bien expliqué, hein, les réserves.
Non, mais... mais oui, la navette...
Ah, au début, je sais que ça s'est discuté.
10.2.
Oui, je, Richard Allard, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1372, créant une réserve financière afin de créer un fonds de prévoyance relativement au réseau d'égouts municipal. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé, séance tenante.
Parfait. 10.3, un autre avis de motion, qui donne?
Je, David Huggins-Baines, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil, il sera présenté le futur règlement 1373, créant une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance pour lutter contre les changements climatiques. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante.
10.4,
un
autre avis de motion.
Je, Alexandre Rémière, conseiller municipal, de la ligne motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1374, décrétant un emprunt de 1 675 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne, des équipements et leurs installations, incluant les frais inhérents, les taxes et les imprévus, et pour autoriser une dépense qui ne devra pas excéder 1 775 000 $. Un projet de règlement qui sera présenté et déposé
Parfait. 10.5,
un
autre avis de motion.
Je, Ariel Baudin, conseillère municipale, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1375 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Saint-Adèle. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante.
10.6, c'est une point d'avis de motion. C'est une.
Je, David Huggins-Baines, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1266-3
modifiant le règlement 1266 autorisant le fonds de roulement. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance suivante. Tu pourrais expliquer. Ça, on augmente le fonds de roulement. On va ajouter de l'argent jusqu'au maximum permissible par la loi.
Mais c'est parce qu'en créant un règlement, c'est une réserve, c'est un règlement, tout l'argent qui est mis dans la réserve ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles dans la réserve il est utilisé. Ça, les égouts pour faire des pensants égouts.
Pour les besoins, là, ça nous a été expliqué en long et large. Là. On a mis un plafond à ces réserves-là, parce que sinon, on pourrait faire collecter des taxes, puis bourrer ça dans des réserves, puis les services ne seraient pas nécessairement donnés. Là. Donc, on met un plafond à ces réserves-là. La seule chose, c'est que c'est des réserves de sécurité, un peu comme on fait pour éventuellement, dans 5 ans, 10 ans, mon toit va être à refaire. Donc, on commence à piler un petit peu, la voiture va être à changer. C'est à peu près le même principe là-dessus. On met un plafond, sauf que l'argent qu'on dépose dedans, ben, va être dépensé exclusivement pour la raison pour laquelle le projet de règlement est fait.
C'est des dépenses qui ont tendance à être imprévues et exclusives dans le cas des égouts et des aquifères. Comme on a vu à Montréal, je pense qu'arrivement, il y a des fontaines, des geysers.
On arrive au règlement 11.1, règlement 1370, décrétant des dépenses de 2 millions en immobilisation pour la réfection des bâtiments médicaux et l'acquisition d'équipements type parapluie. Qui propose l'adoption du règlement?
Oui, moi je propose, c'est ça, je propose, c'est un règlement pour des emprunts allant jusqu'à 2 millions de dollars pour la réfection des bâtiments dans les prochaines années, y compris l'hôtel de ville, mais aussi le bâtiment de la ville, donc je propose.
Est-ce que la ville nécessite des travaux sur le toit présentement? 11.2, le règlement du 14-21-21. Modifiant le règlement du zonage numéro 13-14-21-Z, visant à modifier les dispositions relatives à la pente maximale d'un terrain dans l'aire d'implantation d'un bâtiment en concordance au schéma d'aménagement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui propose?
Je propose.
Que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. Je fais de parler de la dame qui va être d'accord.
Bélanger.
Ah, oh, Ariane, ben où est-ce que tu mêlais avec France? Excuse-moi. Madame Bélanger. Allez-y.
Donc, le point 12.1 pour les dépenses effectuées en vertu du règlement 1303, les incompréhensibles au montant de 158 988 pour la période du 10 au 16 mai 2025. Les incompréhensibles au montant de 551 321 pour la période du 7 au 23 mai. Ensuite, à part des incompréhensibles au montant de 123 967 pour la période du 24 au 30 mai. Et finalement, les incompréhensibles de 6 366 127 et 37 pour la période du 31 mai au 6 juin 2025. Ensuite, on a les listes des comptes à payer au montant de 1 481 617 et 95 pour le mois d'avril 2025. Les engagements au montant de 717 075 et 43 pour la période du 1er au 31 mai 2025. Au point 12.2, délégation de pouvoir pour l'embauche d'un employé ses amis préposé au service des loisirs. 12.3, le dépôt de la trésorière du rapport financier pour l'année 2024. 12.4, dépôt pour le dépassement de coûts, vêtements de travail pour les colliers. 12.5, délégation de pouvoir pour l'embauche d'un employé ses amis posteuse au service des loisirs. Et 12.6, délégation de pouvoir pour l'embauche d'un employé ses amis préposé à l'accueil à la place des citoyens pour le service des loisirs pour la période estivale 2025.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est le point de communication des membres du conseil. Alors, je vais commencer avec M. Alain.
Il y avait quelque chose que je voulais parler, puis j'en ai parlé avant, j'ai pas été capable de m'empêcher. Je vais revenir sur autre chose. J'ai remercié les membres du CCU pour leur implication. On a eu une surcharge de travail là, dans les derniers temps. Les gens ont été absolument fantastiques là, de nous offrir leur temps c'est bénévoles qui sont, c'est des bénévoles qui font ça. C'est des gens en plus qui ont une expertise bien particulière. On a des architectes là-dessus, on a des gens qui ont travaillé à des hauts niveaux là, dans d'autres municipalités. Donc, c'est des gens qui nous arrivent avec une expertise qu'ils mettent à profit là, pour l'ensemble des citoyens. Donc, je voulais remercier les membres du CCU là, pour leur implication. Je voudrais rajouter à tout ça, parce que j'ai 3 minutes, je vais en rajouter un petit peu plus. Les gens du greffe aussi, là, vous savez, je lis toutes ces choses-là, mais c'est préparé par des gens. Il y a des gens au greffe qui mettent temps et effort, là, oui, ils sont payés pour ça, mais ils mettent temps et effort pour nous rendre là, la tâche facile là, au niveau du conseil pour qu'on puisse bien étudier là, les résolutions, qu'on puisse avoir une compréhension complète. Je vais rajouter, oui, aux gens du greffe, mais la direction générale aussi qui nous appuie de façon exceptionnelle là, pour nous rendre les dossiers là, digestes, parce que les dossiers peuvent être parfois assez complexes. Donc, je voudrais remercier l'ensemble du personnel là, qui nous appuie dans nos tâches là, au conseil.
Merci beaucoup. Madame Gaudin.
Bien, bonsoir tout le monde. On a parlé de l'AC tantôt, puis juste, l'AC c'est notre richesse, puis il faut faire un petit peu les préserver, mais juste, on va avoir une rencontre avec les regroupements de l'AC cette semaine. On travaille la ville de concert avec le projet de l'Empire et le conseil régional en environnement. Et il y a un regroupement de toutes les associations de l'AC qui s'est créé à Saint-Abel. Donc, on a notre deuxième table de consultation avec eux cette semaine. Je voulais juste vous rappeler, on essaie de faire un effort quand même grand pour sensibiliser les gens aux espèces exotiques envahissantes. Donc, juste si vous pouvez, lorsque vous allez au lac, ou si vous avez des gens qui vont au lac, leur rappeler de laver leurs embarcations, de nettoyer ça de manière super simple avec un linge ou à l'eau, si on se promène d'un lac à l'autre dans la ville. Rappeler ça comme message à tout le monde. Sinon, sur une note plus festive, il va y avoir cet été des fêtes de quartier. Nous, on a une initiative qui s'appelle les fêtes de quartier avec les loisirs. Puis, si vous voulez faire un rassemblement avec votre voisinage ou une fête de quartier, la ville offre la baladelle, qui est un camion qui vous donne accès à des outils, des appareils pour votre événement, ainsi qu'une aide financière. Donc, pour ça, vous
allez
juste à contacter
l'URG. Non,
c'est un beau début d'été.
Merci. Monsieur
Lemagnard. Deux trucs. C'est une initiation à 24 heures, la fête nationale. Puis ça m'a frappé à quel point je trouve ça le fun de début d'été. L'an passé, j'étais là. Puis de voir les tambours, les enfants qui jouent ensemble. C'est la force des classes, belle activité. Puis finalement, comme on parlait de l'audit qu'il y a eu pour nos équipes financières, c'est que tout ça, c'est fait par un externe, bien sûr. Puis les autres ne sont pas payés pour nous dire ce qu'on va entendre, ils sont payés pour nous dire la vérité. Puis on a reçu des super bons commentaires sur la manière, sur le département de la trésorerie de la ville de la Rivière. C'est juste des félicités et des remerciements pour ça.
Merci. Ici, le bien.
Oui, c'est à mon tour. Oui. Ben, comme d'habitude. C'est pas parce que j'ai rien à dire. Hein. C'est juste que. Je ne suis pas le gars le plus à l'aise de parler en public. Mais ça ne fait pas de moi.
Mais
c'est pas mon c'est pas ma force de jaser en public, parce que j'aime mieux leur vie à ceux qui veulent poser des questions.
Parfait. Monsieur Gagné.
Je voudrais juste dire un merci à tous d'être ici ce soir. Puis des belles vacances à tout le monde, soyez prudents. Ça arrive vite des fois des bad luck. Puis je voulais dire un petit mot spécial pour les gens du Lac Miette Association. On a une rencontre à toutes les années avec eux autres. La collaboration est super récurrente. Puis c'est du monde bien le fun que j'ai appris à connaître dans ces 4 ans-là. Puis je voulais lui dire un petit clin d'œil parce que j'ai tout fait. Je m'a tout le temps essayé de tout faire. Puis dans le notre possible. Je voulais lui dire un gros merci parce que c'est plus que rien de la collaboration. Vous m'avez fait des amis là-dedans, puis c'est le fun.
Monsieur Benden.
Oui, merci à tout le monde d'être venu. Là, je vais un petit peu, j'ai lâché un terme qui revient souvent, puis on se rend compte qu'on fait tomber des acronymes, puis du jargon municipal, puis c'est pas toujours le terme, pas toujours le. le cas que les gens comprennent le même langage qu'on utilise, puis on s'en rend même pas compte. Je vais à des réunions publiques, puis je me rends compte que là, les gens posent des questions, puis je suis comme, ah, ouais, mais là, faut repartir d'un langage commun. Là, j'ai mentionné le mot pérennisation quand j'ai parlé des sentiers dans le cas d'un bâtiment. Et on entend souvent par rapport aux sentiers, puis juste de dire là, ce que ça veut dire exactement. Parce que, ben, on dit ça, c'est quelque chose qu'on trouve que c'est bon, là, mais c'est quoi exactement? Mais en fait, c'est vraiment très simple, c'est vraiment un accès notarié, c'est perpétuel. Tu as un acte légal qui dit ce sentier, il l'a, puis il faut en prendre compte. On a un accès, puis ça ne peut pas être enlevé quand le terrain est vendu, ça ne peut pas être enlevé quand quelqu'un construit quelque chose autour, le sentier est là. Puis, je pense que c'est un concept qui est très important parce que là, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans nos débats et nos politiques, là, où il y a aussi question de pérenniser des choses. Parce que, tu sais, je pense pour moi, s'il y a des choses comme la protection de la nature, il y a des choses comme les logements abordables, où on a eu ça un peu par hasard, pour comment le dire, pendant longtemps. C'est un peu, il y a eu des forêts, puis il y a rien qui s'est construit là-dedans, puis c'est très beau. Mais tous ces terrains ont toujours été zonés. Il y a toujours eu un usage permissif pour comme construire des maisons dans ces forêts. C'est juste que là, le propriétaire, il voyait ça à l'avenir, c'était un investissement à long terme, mais c'était quand même pensé comme si on allait construire des maisons, là. Et que, quand on ne peut pas compter comme ça, si on veut conserver la nature, si on veut conserver nos sentiers, on ne peut pas compter sur la bonne volonté de quelqu'un de juste pas construire quelque chose. Puis on ne peut pas juste dire, on va le créer pour ne pas construire. Non, ça prend un acte légal qui dit, c'est garanti. C'est pour ça qu'on fait des choses comme le parc du Mont-Garou. Puis c'est vraiment la même chose pour le logement aussi. On ne peut pas juste dire, ben là, ça ne coûte pas cher se loger, puis. On a les appartements pas chers parce que là, on a vu ce qui est arrivé, 5 ans plus cher, tout a doublé, triplé. Puis, ça prend dans un cas, ça prend des logements sociaux, ça prend des logements où c'est garanti que ça va rester abordable. Donc, je veux juste dire ça. Dire que si on trouve que ces gens sont importants, il faut qu'on protège ces choses de façon formelle et pas juste à dire c'est très bon ou ouais, je suis sûr. On aimerait que ça soit comme avant parce qu'on peut juste taper les doigts et faire comme avant. Il faut qu'on travaille fort pour ça. Donc, c'est bon, mon commentaire.
Merci beaucoup. Maintenant que vous avez parlé, c'est autour des gens qui ont parlé. Et je vais faire comme à l'habitude, je prends les noms et puis je vous appelle la suite dans l'ordre. Monsieur Nagui. Ça, c'est un nom des gens.
Ah, monsieur Benalé.
Claudine, bien, ça veut dire. Marie-Louise. Oui, monsieur. Je dis quoi, monsieur?
Marie-Bauchamp.
Monsieur Chevaux, c'est déjà. Marie-Martine. Madame Poirier. Je retourne de côté.
Pascal.
Oui, elle sait. Pascal. Puis par la suite, madame.
Carole.
Carole. Je pense que c'est Diane Carole. On va retourner de côté, monsieur. Oui, monsieur, maintenant. Ah, monsieur, là, excusez-moi.
C'est parce que je me suis coupé les cheveux. Là.
Oui, c'est ça. Je retourne à côté. Tiens, avec le petit là. Mais là, il y a monsieur Paquet. Oui, madame. Oui. Ça va? Ah, ça me dit quelque chose, Jacqueline. J'ai reçu un courriel, je me suis dit. C'est tout. Alors, on va commencer avec Nagui.
répondre. Moi, ma question, c'est au sujet du règlement 1280, le chapitre 3, la nuisance.
Oui.
OK. Donc, dans ce règlement-là, on parle de toute accumulation désordonnée de matériaux, etc., mm-hmm. sauf si des travaux sont en cours.
Oui.
Mais en ce moment, les travaux sur la rue des Copains ont été arrêtés depuis le mois d'octobre.
Oui.
On est au mois de juin. Il y a une accumulation de terre, de garnottes, des enseignes jetées à terre, les camions ont passé dessus. Il y a un désordre total. Vous nous dites qu'ils vont commencer à travailler le 1er juillet. Mais le règlement dit que, sauf si les travaux sont en cours, ça veut dire là, oui. maintenant. Il y a eu 3 plaintes de déposer, pas seulement par moi, mais par mes voisins à l'urbanisme. Je pense qu'ils ont été, mais, excusez l'expression, le bordel demeure. Je me demande si la ville pourrait pas obliger le propriétaire de se ramasser un peu, malgré que c'est un terrain privé, on ne peut pas laisser cette accumulation. Dans le même article, le paragraphe 5 parle d'une accumulation de terre, ce qui est le cas, de glaise, de pierre, ou une combinaison de ceci de façon à causer un danger pour les personnes. Et effectivement, mes petits-enfants viennent me visiter toutes les fins de semaine, puis il y en a une qui s'est refoulée la cheville, il y a des trous, il y a même un nouveau trou, là, je ne sais pas pourquoi, là, devant chez Mme Martine, 1470 des Copains, il y a un nouveau trou là. Je pense qu'on devrait faire de quoi, là, puis rapidement, avant qu'un accident grave arrive.
Oui, bien, moi, je suis là, c'est forcément encore aujourd'hui.
Oui.
En moyenne, 2 fois par jour, parce que je vois que vous y en avez.
C'est ça.
Je trouve que ça avance pas beaucoup. Mais là, justement, on a parlé aujourd'hui qu'effectivement, il est censé d'opérer, donc, il va régler sûrement ces problèmes-là à ce moment-là, j'espère. Mais de toute façon,
c'était
des plaintes
qu'il y a
un suivi,
tu sais,
c'est ça?
Ben, c'est ça, dans le fond, je suis contente d'entendre votre question. Dans le fond, je répète un peu la même chose à chaque fois. Les gens, ils pensent des fois qu'on n'intervient pas parce qu'ils ne voient pas qu'il se passe quelque chose. On est dans une société de droit, fait que quand vous dites, est-ce que vous pouvez l'obliger? Ben oui, on peut l'obliger, mais ça, c'est le tribunal qui peut le faire.
Ouais.
Nous, dans le fond, on va y envoyer un avis. Là, je lui donne des situations, peu importe la situation, là, on envoie un avis ou on communique avec le propriétaire ou on envoie un constat d'infraction. Après ça, si la personne ne s'enterre pas, ou en
ouais.
Ça, ouais, c'est ça. Merci. Dans le fond, c'est le tribunal qui peut l'obliger. Ça, c'est une ordonnance. Fait qu'on doit aller devant le tribunal. Puis le tribunal, ben, vous le savez, hein, c'est pas instantané. Fait que c'est pour ça que dans ce temps-là, les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien. La bonne chose à faire, c'est toujours de faire une plainte. Je sais que les gens pensent qu'ils nous dérangent, mais vous ne nous dérangez pas. Là. C'est la bonne chose à faire, premièrement. Je suis contente de savoir que vous avez vu de nos employés qui sont allés sur le terrain. Là,
et la demoiselle a été formidable,
non,
très polie au téléphone. Elle m'a rappelé tout de suite. Elle a fait la même chose avec mon voisin. C'est pas là mon problème. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas ramassé.
Rien,
il ne s'est pas ramassé. Puis on est obligé de passer dans les trous tous les jours.
Ouais.
Enfin, tout le monde a des droits de passage. Puis nul ne peut être enclavé, vous
mais
savez. Fait que, il est pris avec nous. Là.
Oui.
C'est ça.
Mais est-ce que vous savez qu'effectivement, c'est efficace, hein, quand on parle de la carriole qui s'est passée sur
Ça, ça ne fait pas tellement mon affaire non plus que tout le monde maintenant passe sur la carriole pour éviter ça, parce que là, on a du monde qui couche juste là. Là. Il y a 4 unités et 12 autres unités, puis des clients qui couchent là. Fait que le trafic soit dévié sur la rue de la carriole, c'est un autre problème, en tout cas. Oui, vous avez. Ouais, il y a quelqu'un qui s'en occupe, il faut qu'il se ramasse parce que là, il y a un danger public. La deuxième, une petite affaire, peut-être à M. Allard qui s'occupe beaucoup plus de l'urbanisme que d'autres choses. je me demande...
Je m'occupe de mes enfants aussi.
OK, surtout. Pourquoi que les demandes de permis, à mon avis, sont toutes mises dans le même paquet? Il y a des permis comme très simples, qu'on devrait s'en débarrasser là, à l'intérieur de 7 jours. Là. C'est un permis d'occupation quand il n'y a aucun changement de vocation. Pas de couleur, pas d'enseigne, rien. Là. C'est une question de paperasse. Là, sort le permis.
On a déjà
vous voyez ce que je veux dire? Là? Parce que si on met ça dans le même paquet que c'est un changement de couleur, puis fait que c'est fatal. Un permis d'occupation quand il y a zéro changement.
On a fait deux actions depuis le début de notre mandat. On a retiré l'obligation d'avoir un permis pour la construction d'un cabanon. En soulignant l'importance de respecter quand même la réglementation, parce que c'est pas parce qu'il ne faut pas lever un permis qu'on ne doit pas respecter. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y avait des plaintes pour ce qui est des commerces, pour ce qui est de la recherche commerciale, que c'était très long et les gens ils disaient on part une entreprise, c'est là qu'on a besoin que l'argent rentre. On est dans les dépenses par-dessus la tête. Donc, on a créé une voie un petit peu plus rapide là, pour ce qui est de la recherche commerciale. C'est les deux actions qu'on a posé principalement. Pour le reste, on est débordé par la situation, mais vous savez, là, chaque cas aussi est à étudier de façon très, très pointue parce qu'il s'agit d'une erreur, on en a vécu et on reste plus longtemps avec ces erreurs-là. Donc, oui, c'est long, c'est clair.
Mais justement, c'est pour ça que je dis, quand il y a vraiment rien là-dedans, c'est changement un permis d'occupation, changement de un à l'autre, même la même vocation, tout est pareil, pas d'enseigne, pas de couleur, pas de peinture, rien. 2 mois pour ça. Alors, le monsieur veut ouvrir le 1er juillet. On est allé le 15 mai.
C'est un commerce.
C'est un commerce. Puis il veut ouvrir le 1er juillet. Il me semble que ça devrait sortir là, quand on finisse avec ça, puis qu'on s'occupe des grosses affaires plus importantes.
Ça relève de l'administration.
Oui.
C'est une politique.
Bon, mais d'accord.
Juste pour préciser, c'est qu'on a deux piles. Oui,
vous avez deux piles.
La pile commerce, là, votre demande est dans la pile, votre demande ou celle de quelqu'un d'autre, là, dans la pile commerce. Fait qu'elle devrait cheminer plus vite qu'une demande régulière, mais si vous voulez me voir après, si vous avez des informations.
Vous donnez l'adresse, si vous allez le 11-10 de votre internet.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci. Madame Lavelle.
Mon Dieu, j'ai l'impression que vous m'attendiez. Bonsoir à tous. Merci de la rencontre de ce soir. Je dois vous avouer que je suis extrêmement surprise qu'on ne revienne pas sur le moratoire qu'on avait discuté au dernier conseil. C'est quand même un point hyper important qui aussi énormément de citoyens ont manifesté leur inquiétude concernant la croissance excessive du développement immobilier. La pétition qu'on a mise en branle a eu 800 signataires en l'espace d'une semaine. Où en êtes-vous? Pourquoi vous n'avez pas discuté de ce sujet-là qui est quand même sur ça très important?
Oui, parce qu'on avait la réponse.
Ah, super, moi je suis contente, les trous, je suis prête à l'entendre.
Bien, écoutez, on ne pouvait pas faire arrêter tous les travaux, on ne peut pas faire ça. De toute façon, il y a des lois qu'on doit suivre aussi dans ce genre de choses-là. Et puis, on vit une temps pleine crise du logement, mettre un moratoire pour construire, ça serait un non-sens un peu. Par contre, dans le moment où on a mandaté le net urbaniste, on a décidé qu'on voulait gérer la croissance et la ralentir, ou du moins la faire de façon à ce qu'elle soit un petit peu moins agressive. C'est-à-dire que, dans le moment, le directrice du service urbaniste travaille sur les différentes zones qui sont à densité moyenne et intense.
Mm-hmm.
On est en train de modifier la grandeur des superficies. Pour pouvoir construire moins, disons, par exemple, je prendrais un endroit, disons, qui a 42 logements, puis on déciderait d'arrêter les nouvelles normes, mais il y en aurait peut-être juste 18 ou 20.
Okay.
Fait que là, il y a plusieurs zones qui ont été faites, mais c'est quand même un travail qui ne se fait pas en claquant les doigts. Mm-hmm. Puis aussi, on était surpris, ça devait être à l'heure du jour, on veut aussi arrêter la construction de nouvelles rues. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait
les prolongements. les nouvelles de l'époque.
C'est ça. Ça, c'est des choses qu'on a mis à Béatrice ce soir, ou en tout cas le déposer régulièrement, mais je ne sais pas comment ça s'est pas fait, parce qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu entre le temps, mais ça fait partie des, de la réflexion aussi, des choses qu'on est en train de mettre en place. C'est pas parce qu'on n'y a pas pensé.
Okay, parfait.
On est parti de ça, puis on essaie de modifier. Puis, évidemment, il peut y avoir aussi d'autres modifications qui se feraient éventuellement, mais avant qu'on soit, que le nouveau conseil, ça va être difficile, parce que souvent, lorsqu'on fait un dépôt de règlement, il y a un avis de motion, un règlement numéro 1, 2, 3. Moi, j'aimerais qu'on rende les choses beaucoup plus difficiles à l'extérieur du périmètre urbain pour construire. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Et puis aussi, qu'on ait plus de rigueur au niveau de la grandeur des superficies. Puis qu'on revise le plan d'urbanisme, parce que même s'il était adopté en 2021, puis qu'il a été adopté en conseil en septembre, je pense, il est, avec le l'accroissement phénoménal ou exponentiel, il est dû pour être révisé, je pense, dans son ensemble.
Je veux juste dire, c'est pas, tu sais, ce qui vient d'être dit, là, c'est absolument pas un blâme pour l'équipe qui était là avant nous,
non,
parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, les changements. Les changements, on les a reçus plus qu'on les a planifiés, là, donc c'est arrivé comme ça. Puis je peux vous dire que ce que vous nous dites, on est déjà en travail là-dessus depuis plus qu'un an là-dessus. On est déjà, d'abord des réflexions, ensuite il faut savoir qu'il ne faut pas réveiller l'ours qui dort, là, il y a des façons de faire. Il faut aussi intervenir aux bons endroits, parce que si on limite la construction de nouvelles maisons, c'est l'accessibilité, c'est le prix des maisons, mais il faut être capable d'aller juste aux bons endroits, et ça devient, chaque petit changement qu'on fait, des implications qu'on ne peut même pas soupçonner là, sur d'autres choses. Augmenter la superficie des terrains, bien, on vient d'augmenter là, la valeur de l'immeuble là, terrain, ce qui veut dire que la bâtisse qui va se faire dessus va nécessairement être en conséquence. Et là, est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? Bien, là, il y a une réflexion, il y a des discussions à l'interne là, au niveau des membres du conseil depuis déjà longtemps.
Puis, récemment, il y a eu des choses plus concrètes.
Ça aboutit, mais je trouve, selon moi aussi.
Est-ce que vous entrevoyez que le dépôt de ce nouveau règlement-là soit déposé au prochain conseil?
Je ne sais pas, il faudrait qu'on parle avec les directrices et l'urbanisme, selon les délais de sa disponibilité.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que le conseil nous a demandé. Fait qu'on travaille là-dessus pour, dans le fond, essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait se faire rapidement versus qu'est-ce qui peut prendre plus de temps à se réaliser. Fait que c'est ça que Mme Lalonde essayait d'expliquer. Il y a des choses qui peuvent se faire plus rapidement.
Tout à fait.
Puis, c'est ça. C'est ce qui nous fait ça là-dessus qu'on travaille.
Je crois que vous avez mis la question ce soir.
Mais j'apprécie, puis tu sais, sachez que j'ai toujours été là en soutien pour vraiment vous donner les arguments adéquats pour pouvoir aller de l'avant et aussi répondre à les questions des citoyens.
Il y avait quand même 800 personnes, effectivement.
Quand même.
Qu'on pose des gestes pour qu'au moins entendre des choses.
Tout à fait. J'ai un deuxième point. Le 9 juin, Bourg-du-Lac, le bâtiment a brûlé. Vous êtes sûrement au courant, là, j'imagine. C'est un petit projet. Je dois vous avouer, je suis extrêmement inquiète de la zone humide parce que quand ça a brûlé, évidemment, les eaux se sont écoulées vers la zone humide. Est-ce qu'il y a eu une protection quelconque qui a été faite à ce niveau-là pour ce bassin-là? Parce que ça s'en va directement dans le lac Rose.
Je pense qu'au niveau du service d'incendie, ils peuvent répondre à ce genre de questions-là. Tu sais, parce qu'effectivement, il y a un déversement d'eau.
Oui, il est constant. Nous, on le voit dans les pluies. Dès qu'il y a une forte pluie, les eaux découlent directement par la suite vers la zone humide. Il n'y a aucune protection entre les deux.
C'est pour vous mettre sur les lettres.
Oui, c'est ça. Je suis revenue de vacances aujourd'hui. Je n'ai pas l'information.
Merci.
Merci. Madame Beauchamp.
Oui, je vais continuer. Bonsoir. Je vais continuer un petit peu dans le sujet de madame. Ce terrain-là, c'est le bassin versant. Donc, est-ce que c'était avisé d'avoir une construction là? Est-ce que c'était une bonne idée?
Mais quand je vous parlais tout à l'heure du plan d'urbanisme, c'était à l'intérieur du plan d'urbanisme, c'était autorisé. Donc, lorsque quelque chose est autorisé par un règlement, on se doit de respecter le règlement, puis si la personne est conforme.
Selon l'information que moi j'ai eue, c'est que normalement, un bassin versant, il ne faut pas y toucher. C'est pas le poumon du lac.
Moi, je comprends, là, mais je veux dire, comme je l'ai dit, on est allé avec les règlements qui sont en vigueur. C'est pour ça que c'était approuvé. C'est, C'est peut-être un peu dommage, là, mais...
Dans quel sens, dommage?
Oui, parce que peut-être, moi, dans mon livre à moi, peut-être que ça n'aurait pas dû se construire, c'est le type de
façon. OK. Donc, si, par exemple, une nouvelle étude est faite et que ça n'aurait pas dû être fait, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la construction est arrêtée de façon permanente?
Il faut savoir pourquoi ça ne peut pas être fait. Est-ce que c'est la réglementation ou est-ce que c'est la réglementation sur la protection de l'environnement? Fait que si on bloque pour la réglementation municipale, on ne mettra pas la pâte à dents dans le tube, là. Mais le déboisement, je le trouve absolument là, scandaleux. Là. Il y a eu un grand déboisement. Il y a eu, par contre, des ententes avec l'entrepreneur de reboiser, refaire à la soirée.
Oui, ben, moi aussi, je l'avais dit. Le mois dernier, ça avait été
mentionné. Ça avait été discuté. Fait que le premier point, c'est est-ce que la construction peut être bloquée par la réglementation municipale? Non, il n'y avait pas moyen de bloquer par rapport à la réglementation municipale antérieure, là, qui date de mai 2021. Par contre, au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui est à faire? Il y a déjà des études, il y a des gens à l'arrière là, que je vois, là, que je salue, qui ont poussé l'étude quand même assez loin. Et là, il y a des choses là, qui sont en branle avec le ministère de l'Environnement et on attend les résultats là, des études du ministère de l'Environnement.
OK. Peut-être, parce que c'est moi qui nous... dans le fond, si je comprends bien, c'est parce que vous parlez du bassin versant, mais le bassin versant, c'est toutes les montagnes
qui sont montées
dans le lac. Ça veut dire qu'il y a tout un secteur alentour du lac.
C'est comme le champ de clair.
Mais
c'est
ça,
on est tous dans le bassin versant.
Ça n'arrive pas.
Il n'y a pas de loi sur les bassins versants. Il y a des lois sur les bandes riveraines.
Exact.
Puis ici, il y a un cours d'eau, on ne peut pas construire dans la bande riveraine d'un cours d'eau. Puis si on construit dans la bande riveraine d'un cours d'eau, où on n'aurait pas dû voir de pièces, en tout cas, d'autorisation, nous savons où on retait ça à l'état naturel.
Mais après la séance,
ça, c'est la loi
après la séance, je pourrais vous donner l'information sur une séance similaire dans une autre municipalité dans Laurentide, mais ce n'est pas la place en ce moment là, pour faire ça, selon ce que vous avez dit au début. J'apprécie la suggestion de Mme Baudin pour les planches sucres. Il faut penser aussi aux wetsuits. Mais comme j'avais mentionné le mois dernier, on peut suggérer aux gens, je peux dire à mes amis, bon, ben, mets pas ta planche sucre, ton wetsuit.
Ouais, ouais, ouais.
Mais comme je disais, ça ne paraît pas doux de vérifier au lac que toutes les planches soient propres. C'est pas à moi de faire la police. Je peux le dire à plein de gens, mais ce n'est pas notre rôle à nous.
En fait, on a parlé là, de cette possibilité-là qui se présentait financièrement, parce qu'on vous dit que c'est aujourd'hui.
Ouais.
C'est 50 000 piastres.
Peut-être un montant bien dépensé, compte tenu que si le lac, on perd la qualité de l'eau, les propriétaires autour vont en bénéficier.
Par exemple, le lac Mouillette, il n'y a aucune entrée de il n'y a aucune plage municipale, tous les résidents, comment on fait pour contrôler la visite, les gens qui y vont, les gens qui bouchent avec.
Non, mais c'est un acte public.
Ben oui, mais les lacs n'ont pas de ce public pour les abandonner.
Oui,
non,
je comprends.
Ah non,
c'est ça
que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas de l'accès public.
Tu sais, comme au Lacron, par exemple, vous mettez une police en sortant qui fait le tour, vous trouvez un terrain, un
privé. Non, mais c'est une responsabilité pour les accès publics.
Ben oui.
Si le voisin est posé,
c'est la sensibilisation.
Ah, je sais.
Eh bien, honnêtement, les espèces envahissantes peuvent aussi bien arriver par un accès privé que par un accès.
Oui, c'est certain, mais c'est votre rôle en tant que municipalité, au moins de contrôler celui-là. Je comprends que les propriétaires peuvent se promener aussi. La dernière question, ça touche le développement qui va y avoir lieu près d'Entremont. On en a 86 maisons dans les anciennes pistes du Mont-Gabriel.
Ah, donc, du côté de Mont-Gabriel.
C'est
pas
86, par contre. Non,
mais c'est ça que vous aviez dit la dernière séance.
On n'a pas dit ça, je pense. C'est pas qu'une soixantaine, quelque chose comme ça. On n'appelle pas le chiffre exact.
86 ou...
C'est pas 86.
OK, mais 86...
C'est une
oui, 86 ou 60, ça reste que 60, on va dire, c'est quand même beaucoup. Ça va être situé où, à peu près? Tout le long de la montée Binet? Jusqu'à la rue Entremont.
On a fait peu du long de la montée du net. Puis ce qui arrive, c'est que là, il y a un chemin qui a été fait, qui suit un aqueduc.
Oui,
un aqueduc qui part de Mont-Gabriel qui descend à Entremont. Oui. Il y a déjà un chemin qui est là. Ça va sur ce chemin-là, puis il y a un autre chemin qui va être fait, qui va boucler entre ce chemin-là et la montée du net.
Okay.
Et les lots sont faits sur les sont
cette nouvelle rue-là et aussi sur le chemin existant de la
rue. OK, tu comprends bien, à partir de la rue, tu fais le tour du plat en bas. L'accès qui a été fait pour nous.
Oui, il y a comme un chemin entre aviers, là.
Oui, du gros contacté. Donc, la rue, il va y avoir une rue, là.
Il va y avoir une nouvelle rue qui va être construite entre la ville. Parce que c'est dans une zone de... c'est une zone de faible densité. On existe déjà dans des zones de faible densité, comme ça que toute nouvelle rue doit boucler à une rue existante. Donc, il n'y a pas de long cul-de-sac, c'est comme une rue qui boucle entre la cul-de-sac qui est déjà là. C'est cette rue qui est là, Montélimètre.
Okay,
il y a comme une couple de lots du long de Montélimètre, mais il y a des milliers de mètres de long aussi du monde de Montélimètre. Donc, ça ne peut pas être construit là non plus.
OK, donc ça va partir à part. À partir de la rue en son nom, si on veut, là, ben, le tour du lac, la rue Tour du Lac.
Oui.
Il y a un accès à la montée Binette.
Oui.
OK. Puis après ça, la construction des maisons va aller jusqu'au stationnement du Mont-Gabriel qui est en bas, près de la chaise en bas, parce qu'il y a un milieu humide là.
Je
ne
suis pas trop certain, il faudrait que je regarde.
Les lots, c'est combien les lots? Des gros lots, des petits lots?
Ben, ils sont conformes au règlement
vigueur.
OK. Puis avec vos certifs, sont pas desservis. Ils sont desservis par l'aqueduc, mais pas partout.
OK.
C'est 4000 mètres carrés, je pense, quelque chose comme ça.
OK.
Il y a une servitude de non-déboisement aussi le long, qui est essentiellement pour préserver l'aspect visuel à partir de la 15. Justement pour ça, une barre d'arbres qui, derrière les maisons, vont peut-être derrière ça.
C'est bien. Merci.
J'ai une issue sur vous.
Tu me prends en train de dire ça. Je crois que je vais pouvoir poser une question. J'ai une question à poser.
Ah, t'as une question à poser?
Oui.
À qui?
Tu l'as devant la table? Non, mais je ne sais pas dans ta marque, c'est pas fonctionnement. Je ne peux pas y poser, je crois que vous autres en haut. Sauf que là, j'ai une question à poser.
Mais regarde, c'est la vie de la vie, je peux parler en premier, regarde, on va y aller comme ça, on va régler ça tout de suite.
Bonjour. Moi non plus, j'aime pas parler en public, c'est pas le plaisir de venir ici depuis 8 mois. Je voudrais vous raconter notre expérience citoyenne, parce que vous valorisez l'expérience lorsque les gens viennent ici, vous les remerciez de venir. Je vais vous faire juste un topo de notre expérience.
Assez vite, M. Joyeux.
Pardon?
Assez vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde ici. À moins que vous attendiez à la fin, mais vous savez, vous comprenez, il y a beaucoup de monde dans la salle, puis ici, il y a des gens là, qui sont le 8e, puis le 9e, puis le 10e, puis à un moment donné, ils vont se tanner, ils vont s'en aller. En tout cas. Moi, ça me paraît que si je fais 11 heures, c'est fou, c'est
bien. J'ai essayé de faire ça assez rapidement. Je
ne dérange pas de
monsieur. Juste avoir faire un compte rendu de notre expérience. Vous avez accepté un projet, tous autant que vous êtes, hein, parce que vous avez, quand quelqu'un l'a proposé, vous avez tous accepté ça. Ce projet-là, si je vous demandais maintenant à chacun de vous si vous trouvez que c'est convenable, vous allez tous me dire que ça n'a aucun sens. Je demanderais à vos gens d'urbanisme, ils me diraient que ça n'a aucun sens. Votre système, actuellement, je vous entends parler, puis je vois vos valeurs, puis je suis convaincu que vous voulez faire bien. Ça ne marche pas, votre système. Puis nous, on est venus ici pendant 6 mois. Faire la job de votre gens dans les bureaux en bas. On vous a amené les preuves, les résumés. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour vous dire, hey, c'est Lacron. On a levé tous les drapeaux rouges possibles, toute la gang. Chacun d'entre vous ici avait reçu tous ces documents-là. Et il n'y a personne, pas un d'entre vous qui nous a pris au sérieux. Puis on n'est pas, nous, on est peut-être les cons du village, là, mais Mme Poirier qui est là, il y a plein de gens qui se sont battus. Puis vous nous avez jamais écoutés. Puis là, le résultat, présentement, là, vous le connaissez très bien, c'est deux ruisseaux. Pas un que vous avez anéanti. Maintenant, je veux vous dire, vous avez le pouvoir. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours dit, les réglementations font que nous, on ne peut rien faire, le promoteur a raison. Ben là, vous l'avez, il y a deux ruisseaux. Si vous appliquez la bande riveraine aux deux ruisseaux, ben effectivement, 42 logements, on va retomber à 18. Là, je sais qu'il y a le génie civil, tout entrepreneur, il a payé. Mais tout ça, c'est votre responsabilité. Tout ça, les frais juridiques, parce que ne mentez pas à la population, il y a des poursuites qui s'en viennent. Tout ça, c'est parce que personne d'entre vous a voulu nous écouter ne serait-ce qu'une seconde. Ça aurait pris une heure. Vos gens, bon, vous ont rencontré des salades quand ils vous ont dit en accord avec la MRC. Mais non, on sait que la MRC n'a rien. Vous n'avez jamais demandé à la MRC quoi que ce soit. Qu'un ruisseau de bien parce que.
La MRC, effectivement, est venu, mais non de façon officielle. Il n'était pas content quand on a mentionné son nom, il est effectivement venu, mais non, il n'était pas venu de façon officielle.
La MRC ne vous a pas donné l'autorisation pour changer ça.
On n'a pas demandé d'autorisation.
Non, vous n'aviez pas le droit.
On n'a pas demandé, puis elle n'a pas venu.
Alors, de quel droit avez-vous changé ce ruisseau en fossé, madame?
C'est la firme de biologiste qui a déposé son rapport.
Dans ce rapport, il est écrit en gros, je vous l'ai écrit 50 fois, ce document ne peut pas servir à changer un milieu hydrique. Pour ce faire, vous devez faire les études en accord avec le ministère de l'Environnement. C'est écrit en gros même dans le document. Demain, tout le monde ici, vous l'avez reçu.
OK, non, mais regardez. Là, on commence. Moi, je n'ai pas envie de recommencer. Je comprends, on réalise, mais là, on ne viendra pas faire notre
raconter. Avez-vous fait une erreur?
Pardon?
Avez-vous fait une erreur?
Non, on n'a pas fait d'erreur. Je m'excuse, mais nous autres, on n'a pas fait d'erreur. Il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites par le biologiste ou par des gens à l'urbanisme, mais nous autres, on n'a pas fait d'erreur. Pas le conseil n'a pas fait d'erreur. Je m'excuse.
Puis quand on vous a dit, vous êtes sur le point de faire une bêtise, puis qu'on vous emmène tous les drapeaux rouges, puis tous les documents le prouvant, puis personne ne vous écoute, vous n'appelez pas ça une erreur? Vous trouvez que c'est un comportement convenable de votre part?
Nous, on suit aux employés, on ne peut pas faire confiance aux gens qui travaillent avec eux, mais on a un problème, c'est lui.
Puis si il y a un employé qui vous dit que la terre est plate, allez-vous le dire aux citoyens? Ben bon, vous me dites que la terre est plate.
Non, puis là, c'est plus. Là, on a dépassé. Moi, je parle
pas. Oui.
Je ne parle pas souvent.
Allez-y.
Mais quand vous me dites que j'écoute pas, là, que je le prends, parce que ça fait 6 mois qu'on vous écoute.
Oui.
Et qu'on en parle. Et qu'on essaie de trouver des solutions. On ne fait pas ça en public, on fait ça en haut. Fait que quand tu viens me dire que je ne vous écoute pas,
mais de quelle solution pouvez-vous bien me parler depuis. C'est votre département actuel, d'ailleurs, vous pourriez me dire aux citoyens ici, c'est qui a déterminé que ce document qui n'était pas bon, hein? Maintenant aussi, là, le ministère de l'Environnement il a dit tout ça, c'est pas bon. C'est qui a pris cette décision-là, unilatéralement?
En passant, le document du ministère n'est pas clair là-dessus non
plus. Le document du ministère n'est pas clair sur quoi?
Non, il n'est pas clair.
Qu'est-ce que vous voulez dire par les hypothèses?
Ce qu'ils disent, ce n'est pas tout à fait aussi certain que ce qu'ils disent. En tout cas, depuis, je ne veux pas embarquer d'un débat. On n'est pas ici pour des débats. On est ici pour répondre à des questions. J'ai accepté que vous me contiez votre histoire, mais je connais votre histoire, mais vous me l'avez pété. Je n'ai pas besoin de l'attendre 2, 3, 4 fois.
Non, j'aimerais juste avoir des excuses de votre part, déjà, la première des choses. Puis maintenant, le projet, il y a 42 habitations. Qu'est-ce qui va arriver avec les stationnements? Combien? C'est ça ma question. Vous allez faire quoi avec le fait qu'il y a 2 ruisseaux présentement
dans
votre département d'urbanisme?
Présentement, la ville a demandé un arrêt sur des travaux.
Oui.
C'est pour faire des travaux. Maintenant, le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Environnement qui a fait ses démarches maintenant pour la suite des choses.
Non, le ministère de l'Environnement, il va vous dire qu'il y a 2 ruisseaux. Maintenant, je vous demande à vous, à partir du moment où le ministère de l'Environnement vous dit qu'il y a 2 ruisseaux sur le terrain, vous pouvez appliquer vos règlements qui sont clairs, nets et précis.
On a arrêté les travaux.
Allez-vous le faire?
On a arrêté.
Allez-vous le faire?
Qu'est-ce que qu'on fasse?
Je vous demande s'il y a un ruisseau au milieu du terrain, allez-vous exiger la bande riveraine? Je vous demande ça.
Dans le fond, ce que je peux ajouter, là, c'est que le ministère, eux, là, dans le fond, ils ont déposé un premier rapport, qui est le rapport du photo-interprète.
Oui.
Là, il reste un deuxième rapport à faire. L'inspecteur, en tout cas, à moins que vous l'ayez reçu, là, nous, on n'a pas reçu le rapport de l'inspecteur. Il nous a dit qu'il était sur un autre dossier, que ça ne s'en venait pas pour l'instant, que ça pouvait prendre plusieurs semaines. Une fois que le rapport de l'inspecteur va être connu,
oui.
Ils vont envoyer un avis de non-conformité au propriétaire. ils vont lui demander une remise à la conformité. Nous, à nous, là, ils nous ont dit qu'ils ne nous donneraient rien. Ils ne nous obligeraient pas à arrêter les travaux. Même, on a demandé à avoir le rapport qu'ils ne voulaient pas nous donner. J'imagine la même chose pour vous. Là. Ils nous ont demandé de faire une demande d'accès à l'information, alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est une créature du gouvernement. C'est comme si c'était nos parents, qu'on était leur enfant. Et ils ne veulent même pas nous donner les documents, alors qu'eux n'ont pas de moyens, et nous, on en a. Fait qu'on a fait une demande d'accès à l'information. On a monté pour pouvoir avoir le rapport le plus vite possible. Et une fois qu'on a eu le rapport, là, on a fait un arrêt de travaux. Là, après ça, c'est sûr que s'ils doivent revenir à la conformité, bien, l'analyste, c'est ça qu'il nous a dit. Il nous a dit, nous, on va exiger une remise en état. Fait que si ça veut dire une remise en état, une remise à la conformité, ça veut dire qu'effectivement, ils vont devoir défaire ce qu'ils ont fait. Mais là, vous l'avez dit, le reste, là, vous la connaissez l'histoire comme nous, là.
Oui, mais je sais que le ministère de l'Environnement, le monsieur le biologiste que vous mentionnez, m'a même dit que...
C'est pas un biologiste, hein, c'est tous des analystes qui ne sont pas des biologistes.
Celui qui écrit le rapport, c'est un biologiste. Mais...
Celui qui est photo-interprète?
Non, ça c'est le rapport. Celui qui écrit le rapport présentant, c'est le biologiste, c'est celui l'inspecteur qui... Il m'a dit déjà qu'il y avait deux ruisseaux sur le terrain, mais qu'ils allaient sans doute trouver une entente pour celui du milieu.
OK.
Puis moi, je vous demande si le ministère de l'Environnement dit ben, on peut trouver une entente du genre de se faire dévier quelque chose pour garder le projet-là. Où va aller votre intérêt? Est-ce que ça va être de protéger le promoteur pour son investissement ou bien de protéger le lacron que vous avez déjà endommagé vraiment sérieusement? Vous pouvez hacher la tête tant que vous voulez, madame. Ce que je dis, c'est vrai. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
OK. C'est sûr qu'on va s'informer sur ce qu'on doit faire, mais de ce que j'en connais, là, le ministère est plus fort que nous. C'est dans le fond, eux autres, quand quelqu'un qui me demande un certificat d'autorisation, qui est autorisé à compenser pour une perte de milliers d'hydriques, bien, nous, on n'a pas un mois à dire, malheureusement.
Ça, je sais, mais...
c'est ça. Fait que là, je ne sais pas, quand vous dites qu'ils vont faire une entente, moi, je ne sais pas de quelle entente vous parlez.
Mais vous avez le droit, même si le ministère dit, bien, moi, je peux trouver une solution pour ce projet-là, vous avez le pouvoir, présentement, là, de dire, moi, je ne veux pas cette solution-là, moi, je veux préserver le terrain.
Oui, bien, moi, de ce que j'en connais, quand le ministère donne une autorisation et que la personne la compense pour une perte de milieu hydrique, la ville n'a pas un mois à dire.
On verra ce que vous faites.
Bien, c'est ça. Comme je vous dis, on va prendre des conseils.
Je veux juste ajouter quelque chose, car parce que vous avez tout pointé du doigt individuellement, j'en ai une qui s'appelle Nuance. Je sais que vous avez le lien, vous avez directement avec les. On parle au téléphone, moi, un mardi à moins 30 de janvier ou février, jusqu'à là, je pourrais pas conjoindre le jour où ils ont accès au défis milieu-ville avec l'antenne mécanique pour se connecter à la pédule. Moi, quand je suis allé là, j'ai vu, je me suis dit, non, c'est un cas de s'enchaîner à l'arbre. Je ne peux pas agir comme ça. Mais c'est un cas de main, c'est un bordel. C'est une histoire de début à la fin de ce projet-là. Puis quand la manière qu'on a, nous, dans notre pouvoir, le seul pouvoir qu'on a, c'est au conseil, mais quand ça arrive, là, on appelle directement, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien là, le ministère, le gouvernement du Québec leur a donné leur papier qui ont le droit d'aller dans les huiles.
Ça, c'est en bas. Mais la bande riveraine,
juste le dossier dans le pouvoir de ce qu'on peut, le fait de plus, ça se fait en général, puis je ne peux pas partir.
Je vous invite à écouter ma mauvaise prestation du mois de novembre, dans laquelle je vous dis, la minute où vous les laissez mettre la pelle, j'appelle le ministère de l'Environnement, on fait une plainte, ils vont venir faire la plainte, et vous allez avoir tort, je vous l'ai dit. Si c'est pas ça, un drapeau rouge assez pour faire comme, hey, est-ce qu'on peut regarder les documents qu'on a, on est peut-être en train de se planter? Juste par précaution, c'est l'acron dont on parle. Même ce minimum de précaution-là, de dire, hey, il dit peut-être pas des bêtises, on va prendre une heure, hein, parce que vous venez et moi, on n'est pas des champions des papiers municipaux, là, puis nous, on a trouvé ça dans vos papiers à vous, là, après avoir fait la demande d'information, parce que votre service technique refusait de nous parler.
Mais là, excusez-moi, mais moi, je suis capable de répéter la même affaire qu'on a déjà entendue. Je m'attendais à quelque chose de plus nouveau que vous me disiez.
Ben, je vous dis que c'est nouveau.
Vous créez un amphithéâtre comme un drame. Là.
Non, mais c'est
un drame.
Je veux que ça soit
un
amphithéâtre.
C'est un drame.
Non, mais je voudrais juste dire quelque chose. Là. Non, mais je voudrais juste dire quelque chose. Même si, ben là, vous pouvez penser que c'est complètement pas constructif, vous avez rien qu'à vous prononcer, les élections s'en viennent. Sauf que quand je trouve, moi, les personnes ici, là, malgré nos conflits, malgré qu'on n'est pas d'accord sur les affaires, moi, il n'y a personne de mauvaise foi ici. Puis là, présentement, il y a eu un incendie sérieux qui est là. J'ai déjà 6 personnes qui ont été au poste de police, au poignet pour aller témoigner. Donc, en tout cas, moi, il faut que je me présente, moi aussi. Fait que je trouve pas ça drôle ce qui se passe sur ce projet-là.
Mais je l'ai vu.
Ce trafic depuis le début, alors qu'on a fait à peu près une réalisation de 10 à 15 projets, il n'y a jamais eu de tempête de même. J'ai jamais vu une pareille affaire. Juste en face de chez vous, ils construisent. Il y a du déboisement, il y a de la construction. Au Valier-Chenard, la même chose. Quand ça passe, au CCU, là, je connais M. Bergeron, là, c'est un gars très sensé. Les gens autour du CCU, moi, je pense que c'est des gens très intelligents et très sensés qui ne veulent pas la mort du Lacron, parce que là, vous nous annoncez la mort du Lacron. Moi, je vous le dis, je suis dépassé par les événements. Dépassé complètement. Je vous satisse, puis je me retiens, je pourrais dire d'autres choses, mais on me retient. Non, mais on peut parler de la bande d'hydrène, puis en tout cas, on en parle de pas.
Excusez-moi, regardez, on peut-tu passer
à... Je vous satisse que tout le monde mange la mort.
Je voudrais ajouter une question, juste là-dessus. Depuis le début, vous nous dites que vous n'avez jamais pu le refuser, ce projet-là, parce qu'il était dans les normes.
Oui.
Il faisait toutes les normes. Alors, vous pouvez vraiment refuser tout cela dans toutes les normes. Que vous pensez encore aujourd'hui qu'il rentrait dans toutes les normes?
Mais écoutez, avec les études qu'on avait, c'était oui, mais si on dit que deux ruisseaux, il y a
plus d'énormes. À la ce qu'on voit aujourd'hui, puis de ce qu'on voit, l'ampleur de ce projet-là avait quelque chose du début là, de rentrer sur ce qu'il voulait.
Non, c'est sûr que c'est gros.
En ce moment, là, c'est à l'autre année qu'il n'entrait jamais d'énormes.
Je vais répondre.
C'est tout ce que je voulais.
Merci. Le madame, Mme Martin.
Bon, j'essaie d'être de ce que j'ai apporté, moi, c'est surtout au niveau du PIA, parce que tantôt, quand on a montré la bâtisse qui va se construire pas loin de l'église, la rue Grignon, moi, ce que je me suis posé comme question, puis là, c'est pas question de normes ou quand, comment, mais c'est au niveau de l'architecture, puis au niveau de l'intégration puis d'harmonisation avec ce qui est déjà construit. Puis ce que j'ai vu, pour mettre derrière l'église, qui est dans un secteur, en fait, qui est un peu historique, hein? Ben, l'église, quand même, c'est, personnellement, ça pourrait être construit à Brossard. On dirait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui s'installent, que l'entrepreneur, il a acheté un plan, il achète des terrains n'importe où dans la province, il les implante. Puis, j'ai peur que si on n'a pas un plan précis pour chacun des secteurs, que quand ça va se construire, bien, Sainte-Adèle n'aura plus d'âme, n'aura plus d'identité parce que ça va être n'importe quoi. Il y a la pollution visuelle aussi, pas juste environnementale, puis pas juste du bruit. Puis je pense qu'il y a peut-être lieu d'améliorer le PIA, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais pour l'intégration, puis harmoniser la ville, parce que c'est...
Mais ce projet-là, c'est tout un historique, là, c'est... Des bénévoles qui sont là-dedans, ça fait 6 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont travaillé avec des architectes, ils ont travaillé avec différents intervenants, ils ont eu un GRT, c'est-à-dire un.
Mais qu'importe, s'il y avait des normes et des règles, un PIA bien précis, bien, quand l'architecte commence à travailler, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et puis, on va regarder une ville qui est quand même jolie, puis ce que j'ai dit l'année dernière, ma crainte, j'ai pas envie que Sainte-Adèle devienne Brossard.
Parfait.
C'est juste pour me raconter vraiment au sujet des PIA, c'est peut-être pas le problème. Si vous dites que le promoteur peut arriver et savoir ce qu'il va faire, c'est pas ça. Un PIA, par
exemple.
Un PIA qui est discrétionnaire et des objectifs à atteindre. En fait, c'est en fait dans la nature des PIA que
Ben, c'est-à-dire, par exemple, il y a déjà eu des couleurs. Quand c'est une maison, c'est plus maintenant. Je ne dis pas que c'est ça que ça devrait être, mais à Saint-Adèle, il y a déjà eu, il fallait avoir du bleu, je pense. Oui, oui. Bon. Il y a déjà eu ça. Donc, il y avait un esprit, les gens n'avaient pas le choix.
On a des secteurs qui ont été identifiés, puis surtout les secteurs qu'on dit comme sont identitaires. Donc, c'est la côte Morin, puis le Morin, le long, c'est Morin jusqu'à comme Richer, là.
Ouais.
Ça, c'est un endroit. Le village de Mont-Roland, parce que c'est un village, c'est historique, dans le sens que c'est un village ouvrier de compagnie. Donc, il y a un pays là aussi pour assurer.
L'église est à côté aussi du bâtiment.
Malheureusement, l'église, ça ne fait pas partie.
Mais peu importe si c'est historique ou pas, il y a déjà partout dans Saint-Adèle, il y a des maisons construites, il y a une harmonisation qui est à faire.
Parfait.
Voilà, c'était mon entendu.
Madame Boyer.
Doris Poirier, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je considère que oui, il me semble que la ville devrait tout faire pour faire en sorte qu'il faut refaire les bancs de rivière des deux ruisseaux. Ils s'arrangeront avec le reste. Si vous manifestez votre volonté comme ça au ministère, ça va compter. C'est juste ça. Bon. Ouais. OK, mais j'avais une autre question. Ça, c'était pas une question, mais là, j'en ai une question. Je n'ai pas bien compris, puis là, je vous le dis souvent, là, j'ai des oreilles qui n'entendent pas bien, là, c'est pas parce que je suis pas intelligente, là. Il me manque des mots, alors j'ai pas compris. Le règlement sur la pente maximale, là, ça vise à quoi? Est-ce que ça vise à augmenter le degré de la pente quand on construit, ou c'est quoi ça?
C'est avant, c'est comme un bâtiment qui est implanté. Ça peut être un rectangle, soit la forme du bâtiment. Avant, on prenait toute la superficie de l'implantation du bâtiment, puis on calculait la pente moyenne sur cette superficie. Puis tant que ça ne dépassait pas 30 % c'était possible, c'était permis de mettre un bâtiment là. Okay. Maintenant, c'est la pente, je pense que c'est la pente maximale, en fait. Donc, s'il y a n'importe quel endroit dans cette implantation du bâtiment, il y a une pente de 30% en plus, là, ça devient pas possible de mettre le bâtiment là. Essentiellement, ça rajoute des contraintes de pente à où ça peut être construit ou pas.
Ça ajoute des contraintes, donc ça ne va pas augmenter l'impact visuel d'une...
Ça va être plus restrictif.
C'est ça.
Ça va être plus restrictif.
C'est ça. C'est une meilleure façon de dire. Merci.
OK.
Une obligation de la MRC, dans le fond, c'est une concordance avec le schéma d'aménagement. C'est eux qui ont, qui ont dit aux 10 villes, vous devez changer vos règlements.
Donc, c'est pas la ville qui invente ça, pour se rendre...
Nous, avant, c'est la pente moyenne. Eux, ils viennent dire, c'est la pente. Dès qu'il y a un espace dans l'espace d'implantation qui est 30% ou plus.
Donc, ça va être plus restrictif dans la construction dans les pentes.
Exact.
Bon. OK. Faites en sorte qu'on reboise les deux ruisseaux.
Je pense que c'est ça, le ménage.
Qu'on refasse les berges et les deux ruisseaux, puis le promoteur, il s'arrangerait avec le problème.
Pascal.
Oui. C'est pas une question, c'est une demande.
C'est suite à une marche au quatre versants. Là, j'ai vu que le mot pérennisation, ça veut pas dire que ça va garder une grosse forêt autour d'un sentier. On a des belles 149 qui ont passé dans le crosseur d'ailleurs. Fait que là, il y a des sentiers qu'on ne parle pas souvent qui offrent encore des forêts intéressantes. Puis j'aimerais qu'on les mette à titre de patrimoine immatériel. C'est ça le terme? Mon cerveau. Oups! Oh, Paul! Il ne faut pas mettre trop de pression sur la chaise. Fait que le sentier élan, j'aimerais ça qu'il soit là, et le sentier dans le castor, parce qu'il offre, comme je disais, des forêts que les propriétaires de terrain ne peuvent pas voir dans leur maison encore. Mm-hmm. C'est sûr qu'on dépend de leur décision. Je leur demande, en mon nom personnel et celui de mon grand-père, de revenir sur leur décision et de nous donner les clés et les droits de passage sur le temps, chers amis citoyens. Justement, que notre ville arrête de perdre de son cachet. Parce que cette semaine, j'essaie d'aller me détendre dans des coins autres que dans où mon grand-père a travaillé, puis ça a été un échec aussi. C'est-à-dire que je suis arrivé sur d'autres développements que je pensais jamais voir un jour. Je vous le mets pas, je vous critique pas, vous autres personnellement, mais en tant que société, là, j'ai entendu des choses qui m'ont fait du bien un petit peu, mais je pense qu'on faut mettre le pied sur l'accélérateur pour protéger notre forêt puis sa presse, parce que même les chevreuils sont dépressifs, je peux vous le dire.
C'est tout ce que j'ai à dire. Par exemple, si on peut l'avoir, je ne sais pas, par écrit, pour qu'on puisse voir si on peut être passé ou faire quelque chose, ou de l'avis pour faire quelque chose, nous donner.
Oui, tout peut se faire. Parfait. Puis, c'est ça, espérons pour le mieux pour notre dernier non-avril.
Madame Marco.
Oui. Bonjour. Moi, je suis au sujet du PPC moi relatif au projet dans Deauville. J'ai une question. Je suis tout à fait d'accord avec vous que tant qu'il n'y a pas garantie de pérennisation d'une forêt, on n'a pas la garantie de pérennisation. Alors, est-ce que c'est possible? Le projet est mis de l'avant en disant que, bon, on va garder un grand espace boisé, mais on n'a aucune garantie. Zéro garantie. On n'a pas de garantie. Est-ce que c'est possible de demander une garantie? Ça, c'est ma première question. Puis, vous dites aussi que, bon, que l'accès de Deauville se sert de ce projet-là. Je ne vois pas ça comme ça. Je me demande, est-ce que c'est possible de demander au promoteur de donner accès au lac Quévillon parce que son projet est au bord du lac Quévillon? Alors, ce qui enlèverait beaucoup de pression sur le lac Deauville et ce qui serait sans doute une solution, alors pourquoi est-ce qu'il ne donne pas accès à son propre lac qui est aux abords de son terrain et ça enlèverait de la pression sur le lac Deauville? Alors, est-ce que c'est possible de demander ça au promoteur?
Je regarde le plan, puis il y a un accès direct au lac Quévillon, directement en bordure du lac. Je n'ai pas la courbe des niveaux. Est-ce que le chemin est possible? J'en ai aucune idée. La crainte principale, là, moi, quand je dis « se servir », j'ai peut-être été trop loin, puis ça a dépassé ma pensée, là. Mais c'est vraiment deux choses qui sont, dans mon esprit, là, deux choses qui sont séparées. L'accès au lac Deauville doit être protégé, puis oui, il y a un accès municipal qui est là, et la pression, parce que c'est mon district, la pression des citoyens est à la ville a un accès au lac, protéger l'accès au lac, parce que vous en êtes propriétaire de cet accès-là. On a rencontré deux personnes à l'Assemblée publique qui avaient des solutions qui me semblent, en tout cas, à mon avis, là, absolument réalisables. Et la Ville peut facilement, comme on a laissé la gestion de nos parcs à PASA, ça serait possible probablement de laisser l'accès à un organisme non lucratif qui en ferait la protection. Ils verront à le financer ou à ne pas le financer, soit par des subventions, soit par la location d'équipements qui peut se faire sur place. C'était les propositions des deux dames qui sont... Est-ce que
c'était moi, une des deux dames.
Bonjour.
Madame,
échappe mon nom. Moi, j'ai les visages, j'ai les noms, mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pas la force.
Vous allez raconter ça pour les lames.
Oui, on pourrait le faire, mais votre solution semble tout à fait acceptable. Et de l'autre côté, au niveau politique, si on peut vous accompagner là-dedans en disant, oui, on pourrait vous remettre d'une façon ou d'une autre, là, la protection du lac. Mais si c'est pour bloquer un accès au lac, politiquement, je pense que c'est de la vie, je ne vais pas parler pour l'ensemble du conseil, je vais parler pour moi, bloquer un accès public à un lac, il n'en reste presque plus au Québec, c'est comme une espèce de
J'ai jamais parlé de ça.
Mais votre proposition...
Et ma proposition, c'était tout simplement d'enlever de la pression sur le lac Deauville, à l'accès du lac Deauville, en permettant aux gens qui vont être tout à côté du lac Quévillon d'accéder au lac Quévillon. Il me semble que c'est de la logique. Alors que dans le PPC moi, il exclut le lac Quévillon. En tout cas, c'est juste une demande. Est-ce que c'est possible de demander au promoteur de donner accès au lac Quévillon, ce qui enlèverait de la pression? Exactement.
Non, mais c'est par rapport à ce que le projet soit acceptable par rapport à son voisinage.
Parce que c'est le voisinage qui est concerné, pas les gens
qui sont concernés. Oui, mais nous autres, on fait partie du voisinage qu'on est concerné.
Vous habitez à quelques kilomètres de là, vous n'êtes pas vraiment dans le
voisinage. Oui, mais quand même. En tout cas, c'était ma question.
Et en fait, l'accès est presque impossible pour la bande. Vive ce terrain, c'est vraiment une pente qui descend super rapide vers le lac Quévillon. C'est pas intéressant comme accès. C'est pas praticable avec des embarcations ou de quoi comme ça, je pense.
Et puis, ma deuxième question, c'est combien de personnes faut-il pour le registre? Puis le registre, si j'ai bien compris, c'est le 7 juillet de 9h à 16h seulement. C'est quelques heures. Pardon?
C'est
9h à 19h. De 9h à 19h. OK, le 7 juillet. De 9h à 19h, une seule journée. Combien de personnes faut-il pour le registre?
55.
Oui, 55. OK, merci.
Monsieur Humard. Bonsoir.
Je vais faire ça vite. Vous nous dites que vous prenez des notes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, peut-être pas à chaque fois, mais souvent, oui. Vous nous dites que vous prenez le sujet en notes. Est-ce que ce serait possible de nous rendre compte de ce que vous faites avec ces notes-là? Parce qu'on n'en entend plus parler après.
Je sais que la DG prend les notes, elle rencontre fait un comité de gestion tous les mardis, le lendemain, où elle rencontre ses cartes. Puis les points qui concernent les différents cartes, elle le soumet. Puis je sais que moi, après, elle me dit ce qu'elle a dit, puis les actions qui vont être faites. Hein. Souvent, je suis au courant, mais pas de toutes, mais la plupart. Hein.
Bien, nous, après ça, on ramène. Si vous demandez quelque chose aux élus, nous, on va en parler avec les directions de service. Après ça, on va ramener l'information aux élus. Après ça, ils vont prendre des décisions ou pas prendre des décisions. Fait que moi, ben, là, vous pouvez me redemander à
vous. Ben là, moi, je ne sais pas ce
que vous demandez. Moi, je suis redevable aux élus. Fait que c'est sûr que nous, on va ramener l'information aux élus. Après ça...
Quand on a le courriel, tu sais, je dis souvent, laissez-nous votre courriel à la fin. Quand on a la réponse, on ne sait pas à qui, on ne sait pas où l'envoyer. Mais quand on sait où on l'envoyer, on envoie la réponse. On essaie d'envoyer la réponse à la personne.
Oui, mais c'est parce qu'on est tous nous autres ici qui entendent ça. On serait curieux d'entendre la réponse nous autres aussi.
Non, mais on a
déjà discuté
de mettre sur le
nouveau site
web, d'avoir une section.
Ben,
oui,
ça serait une excellente idée.
On a parlé sur le site web, mais le nouveau site web.
Le nouveau site web qu'on va voir quand?
Je ne sais pas ce qu'il travaille.
Je pense que c'est à l'automne.
On est rendu à l'automne? OK.
Ben, oui, c'est ça.
Mais je sens que Mme Brière nous avait dit ça en 2021, oui. C'était supposé être à l'automne.
Oui,
mais non, je ne sais pas.
Mais... Non, mais
là, ça va être vrai. Là, c'est vrai.
Il y a quelqu'un qui est engagé
pour
travailler là-dessus après ça. Okay.
Parce qu'une autre avenue, ce serait peut-être dans le mot de la mairesse au début de la séance, vous nous fassiez part de ce qui a été fait avec les notes qui ont été prises la dernière fois. Ça pourrait être ça aussi.
Parfait. Monsieur Paquet,
tout d'abord, félicitations, Mme Baudin, pour être là. Bonsoir, Mme Vérès, bonsoir tout le monde. Monsieur Gendel, j'ai ouvert un petit là, je vais changer mes questions un peu parce que vous aviez parlé en parlant du bloc de Grignon pour le garder caché à Mont-Valent. Vous savez, c'est la rue Chapelot, le fameux 28 logements qui avait été 18, non, mais déjà. C'est qu'on avait refusé, comme vous aviez refusé. 22, bon. Là, j'essaie de savoir, par exemple, quel est le pourcentage d'arbres qu'on doit garder sur un terrain quand on le plaine à bien?
Je ne sais pas quand c'est dans le terrain.
Dans le
terrain,
c'est des groupes. C'est ça qu'on est en train de voir.
Il y en a qui ont été gardés sur ce terrain parce qu'il y a une partie des terrains qui va très loin en arrière, mais c'est
pas du bas terrain. Et puis, il y a plus de mine, il n'y a pas de fini. Ouais, c'est ça. Là. Trois blocs. Ça va se marier dans le beau secteur patrimonial de Mont-Valent.
Ça va être beau.
C'est pas ma principale question. Vous m'avez ouvert une belle porte, Mme la mairesse. Vous avez été voir, ça allait Saint-Joseph, comment ça rendrait les autos.
Oui.
Moi, voici ça, j'ai ramené gâteau du 20e anniversaire de mes demandes à la ville de Sainte-Adèle de voyager par le chemin de la Hilière au lieu de tout en bourber la rue Saint-Joseph et la rue Roland en journée longue. Avec les camions de la ville.
Bien, moi, j'avoue que moi, quand je vais à Mont-Relais, puis j'arrive du sud, je passe toujours par le chemin de la rivière.
Vous. Bien, vous allez aller lui donner l'exemple. Moi, j'ai dit, je suis prêt à aller.
Les camions de la ville, là, vous.
Ouais, je suis prêt à aller en bas, puis lui dire, regardez, la gauche, c'est par là. Puis quand tu dis au lien, tu passes, tu l'es, c'est pas plus long. Ça, vous l'avez timé, là.
Il
est juste 30 secondes.
Il
passe tout devant chez nous, puis là, de ce temps-là, en plus, là.
Tout.
Tout le monde passe, là.
Oh
my God, je sais pas qui vous envoyez ça, là. Je me demandais à voir ça. Ça doit être le même, là, qui travaille au service technique. Ça doit être un mignon, puis un œil, parce que, moi, là, les.
Puis en plus, là, je vous dis ça parce que il allait avoir la maladie du one way aussi, le sens unique, je dirais. Vous savez, j'ai écrit, madame la mairesse, je suis content, je vous remercie de m'avoir répondu. J'ai écrit à propos de la rue Chapelot, là, que c'était le bordel, là, la rue Lavelle, là. Écoutez, là, elle est pas cassée, là, il n'y en a plus de rue, là. Là, on montrait avec des fardiers, le gars qui est quasiment dans la clôture du gars de l'autre bord, là, des gros fardiers, des pelles. Là, vous avez demandé pour le chemin du barrage. Finalement, ils l'ont ouvert.
Oui.
Mais avez-vous comment? Ils l'ont mis au one way.
Ben oui.
Il est allé creuser un fossé de 3 pieds sur un chemin qui a à peu près 200 pieds de large pour le mettre le plus droit possible pour qu'il le monte par un symbole. Ben, les trucks, parce qu'ils montent encore chez nous, puis ils rencontrent les autobus. Là, c'est correct, l'été, il va arriver, là. Il n'y aura pas d'école. Non, quand il arrive, avec des camions de ciment, essayez de monter sur la rue Lavelle, tu rencontres un autobus en haut, qu'est-ce que tu fais avec ça? Naturellement, naturellement. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas ouvert, puis il y a une largeur. Il a pris la peine d'aller là, avec la plaie, vous creusez, il faut aussi se creuser, il va nulle part, là. Il va nulle part.
C'est qui qui
fait ça? Ben, c'est les travaux publics. Je suis content, j'ai dit, c'est bon. Mais qu'ils l'ont juste au moins dans le temps avec les travaux, mais qu'ils mettent plein de largeur, qu'ils peuvent voyager, même les camions, c'est bien moins dur pour eux autres d'aller là, là. C'est plus facile, ça. Et M. Robillard, merci beaucoup de. J'ai tout goût de vous appeler, là, mais vous m'avez quand même donné des réponses. Non, M. Robillard. Il parle pas, mais je suis content que vous ayez donné la réponse que je voulais avoir à propos de l'office ministère.
Mais là, tout est loué.
Oui, oui, bon, ah, bon, ben, bonne nouvelle. Ça, c'est à niveau de logements sociaux qui est terrible. Merci beaucoup.
Merci. Madame Soleil.
Bonjour, merci. Je voulais juste faire avancer ma demande de permis de rénovation pour notre résidence privée au 2971.
C'est quoi,
hein?
C'est quoi exactement ce sujet? C'est quoi?
C'est une, on veut réparer l'escalier qui est désuet, qui est pourri puis qui n'est pas réglementaire.
Ah, ok, puis,
c'est juste une couleur, puis il veut juste que ça avance, que ça termine.
Mais c'est la pâte à tissu.
La rue Poteau, c'est ça?
Question. Pour aller au bois, il avait été suggéré ça.
Oui, c'est ça.
Ah, oui.
On ne voulait juste pas la peinture en blanc. Tu sais, le blanc, c'est un vieux blanc, il est tout écaillé, puis je viens de passer 30 heures à peinturer en arrière. On veut mettre la belle cruche. On veut refaire les escaliers pour que ça dure longtemps, puis. Là, ben, vous vouliez que ça soit blanc, bon, au pire on peut le faire, mais après on nous a dit que ça pourrait, si c'était tout en bois, la même couleur uniforme, ben nous on serait contents. Mais là on a commandé notre cruche, puis on veut juste que ça avance.
C'est moi qui ai répondu, vous avez répondu, je pense, à votre, peut-être à votre conjoint ou peut-être à vous, je ne sais pas exactement.
Les deux.
Mais quand j'avais parlé des TIA, que si vous voulez que ça soit clair, le TIA, c'est pas le règlement pour vous, parce que justement, c'est discrétionnaire. Et le TIA qui nous dit, c'est pas obligé que ça soit en blanc, nécessairement, ou de quelque couleur que ça soit, là. Mais c'est obligé d'harmoniser. Et c'est pas super bien défini, mais dans le cas, ce qui était décidé, c'est qu'il faut que ça ne soit pas. Ouais. Moi, j'ai le droit, je suis né à Calgary, je vais dire, il faut que ça matche.
Ouais, ben.
Il faut que ça concorde. Donc, c'est juste ça, la solution possible que j'ai suggérée, c'est de au moins mettre que ça soit en bas et en bas, au lieu de l'escalier, des escaliers, des marches qui sont peinturées avec du bois pour les rampes, parce que ça, ça ne marche pas.
Mm-hmm.
Puis, ben, c'est, en fin de compte, c'est le conseil qui décide. On en a parlé, on est comme. Je pense qu'on est un peu comme ouvert à cette solution-là.
OK.
C'est un peu ça que je peux dire, malheureusement. Je ne peux pas vraiment. C'est juste ça, c'est discrétionnaire, là. Mais pour nous, ça me semble une solution acceptable.
OK.
Et c'est sûr que vous avez déjà soumis une demande où vous allez dire on va garder les escaliers tels quels, puis pas faire tirer les rampes, puis ben, vous ne pourrez pas faire ça parce que ça, ça a été rejeté.
Oui, c'est ça. Ben,
mais quelle autre solution est possible?
Je veux juste préciser, par contre, même si vous avez eu un conseil d'un conseiller, ça reste que la procédure doit être suivie, ça doit passer par le CCU, puis c'est le conseil qui décide. Même si vous avez reçu un conseil, mais c'est un conseil de d'un individu et pas un membre du conseil.
Ouais, ça fait il faudrait refaire la demande de TIA, ça va passer par le CCU, puis là, on va...
Quand
il y a une demande de TIA, c'est pas juste on rejette ça, puis vous revenez. On peut discuter pour essayer de trouver une solution pour ne pas avoir rejeté ça. C'est comme il peut y avoir des discussions en amont. Ça, ça arrive souvent. Donc là, on va en discuter.
OK. Ben, c'est ce que j'ai demandé parce que là, ça fait deux refus, puis là, ben, on recommence, mais.
C'est parce que j'ai compris. J'ai
moyen de discuter, d'avancer. Nous, on dit on va se plier aux exigences, mais est-ce que ça peut en tenir avec un oui brun ou non?
Bon, on va essayer de trouver une solution avec le CCU, mais je pense que le conseil est au fait de ce qui se passe dans le dossier. Donc, ça va être possible de trouver une solution.
Mais pour l'instant, le conseil était d'accord à ce que ça soit oui blanc.
C'est le mot officiel du conseil pour le moment, c'est ce qui a été adopté par résolution, c'est que tout est tiré en blanc. Mais là, c'est ça. Vous pouvez faire une autre demande, puis là, ça va être rectifié, puis on peut adopter une autre solution. Okay. C'est ça, parce que là, c'est ça.
Okay. Ben, ça, je voulais pas. C'est parce qu'on m'a dit de venir ici, alors j'ai dit, pour ne pas attendre encore pendant deux mois.
OK. Bien, regardez, venez changer avec vous.
Après?
OK. Est-ce que quelqu'un se pose la levée de l'Assemblée?
Il y avait M. Gagné?
Non, oui, ça va aller finalement, mais je voulais dire un merci spécial à M. Poquet. Ça fait du bien à qui parle. La remise cardiaque sur place, c'est notre espérance de vie aussi. Merci. Voilà, merci M. Poquet. Je propose
la levée de l'Assemblée.
Ça fait tout le monde.